Monsieur le Préfet, merci vraiment de nous accompagner pour cette soirée. Mes chers collègues, conseillers généraux que je salue, plusieurs sont là, maire bien sûr, adjoint, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous, merci à la presse qui nous accompagne pour cette soirée. Puisque nous sommes réunis ce soir pour échanger sur l'accès aux soins, tout particulièrement en milieu rural. Je remercie vivement, ils se présenteront au fur et à mesure de leur intervention, les différents acteurs professionnels de la santé, représentants des principales structures concernées, et vous, mes chers collègues, d'avoir répondu favorablement à cette invitation, ainsi que le président de l'Ordre des médecins de nous avoir invités dans ces locaux. J'y vois un beau signe, le fait que nous soyons ici auprès de vous, messieurs, dans vos locaux, un beau signe de la nécessaire convergence entre les élus et le monde médical face aux problématiques qui nous réunissent ce soir. C'est donc à l'initiative de la commission des communes rurales qui est présidée par Jean-François Guillaume, vice-président de l'association des maires de ville envers moi, et de M. Krauss. Vous avez été maire, M. Krauss. Vous êtes donc vice-président de l'Ordre des médecins, donc vous avez la double casquette, si vous me permettez. Vous comprendrez peut-être encore mieux les préoccupations des élus. Cette réunion a donc pour but de trouver des pistes d'évolution positive pour lutter contre ce que nous appelons la pénurie de médecins, mais sans doute allez-nous vous expliquer. Et le vieillissement de la population médicale dans notre département. En 2009, une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques montrait que notre département souffrait d'une offre de santé inégalement répartie. Par exemple, on dénombrait 87 médecins pour 100 000 habitants dans le bassin de Briey, alors que la moyenne nationale est de 111 médecins pour la même population. Par contre, si la densité de médecins généralistes était supérieure au niveau national, en Meurthe-et-Moselle, 122 médecins pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est donc de 211, 40% des médecins généralistes avaient plus de 55 ans. De nombreux départs en retraite sont prévus d'ici 2015. Je crois que nous pouvons tous le constater dans nos territoires. Alors, depuis 2009, la situation a-t-elle évolué? Quels sont les secteurs du département plus particulièrement touchés? Comment répondre aux besoins? Nous accueillons donc M. Darcourt, directeur régional de la RSI. Bonsoir, M. le secrétaire. Merci de nous rejoindre. Voilà, quels sont les secteurs du département qui sont plus particulièrement touchés? Comment répondre aux besoins? Les collectivités, les communes, les intercommunalités ont tenté déjà d'enrayer le problème en organisant le regroupement des professionnels de santé dans des maisons médicales pour éviter de leur faire connaître l'isolement professionnel. Ce regroupement semble être une alternative rassurante, mais encore insuffisante. Est-elle parfaite? Répond-elle à tous nos besoins? Répond-elle aux besoins des professionnels de santé? Répond-elle aux attentes des élus que nous sommes? Nous avons plusieurs collègues ici qui sont déjà partis dans l'expérience, dans l'aventure, et qui vont nous faire part de leur expérience. En particulier donc François Genet, président de la communauté de communes de la Mortagne, maire de Frimbois, ce n'est pas un conte, qui nous présentera l'expérience de la maison de santé donc de manière, et vraiment je remercie François d'avoir accepté de témoigner. Cette réunion se veut vraiment la plus pratique possible, vous n'hésitez pas à intervenir, les principaux acteurs sont là pour répondre à vos questions. Donc, je salue donc M. Darcourt, directeur général de l'ARS de Lorraine, M. Boyer qui est à ma gauche, président du conseil départemental, Je crois qu'il y a, alors vous vous présenterez peut-être au fur et à mesure, Monsieur Ramac, également de l'ARS, qui est là, non?
Non, c'est Serge Morel, et où est-ce qu'il est disparu, Serge?
Ah, il est là, pas très loin.
Devant,
pas très loin.
Et puis Philippe Coudray, qui doit être
un peu plus loin là-bas.
En train de faire la mise en œuvre technique.
Monsieur Invoix, peut-être?
Pas encore.
Et puis le docteur Dejong, qui est là, qui est le conseiller médical à l'ADP.
Très bien.
54.
Ceux qui ne sont pas cités, je vous prie de m'excuser, mais je pense que vous aurez l'occasion de vous présenter lorsque vous interviendrez. Docteur Durand, Madame Durand, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas arrivée, présidente de l'Ordre des pharmaciens.
Monsieur le doyen Coudal est dans la salle.
Monsieur le
doyen Coudal.
Monsieur le doyen Coudal, merci, monsieur le doyen, de participer aussi à notre soirée. Monsieur Folt. Voilà, qui est là également. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente réunion de travail. Et sans plus tarder, donc je laisse monsieur Darcourt pour quelques mots d'introduction, oui. Si vous voulez bien.
Écoutez, monsieur moi directeur. Je viens avec grand plaisir. C'est ma première sortie de terrain, comme dit Raphaël, mon ami. Voilà, je suis de statut préfet, mais ça c'est un statut. Et Raphaël Bartok, lui, est de statut préfet de terrain, moi je suis statutairement, mais je suis surtout donc directeur général de l'Agence régionale de santé. Vous savez que c'est une création de la loi dite HPST, c'est un établissement public, et je vois le directeur de CEPAM qui oscille la tête. C'est-à-dire qu'on a pris des bribes un peu épars de 8 morceaux autour de la DAS et de la DRAS pour en faire une agence régionale, un établissement public qui travaille en cohérence complète avec la préfecture, mais qui est en soi chargé de traiter ces sujets tout à fait cruciaux que vous évoquez, notamment la démographie médicale, comment maintenir une offre de soins de proximité. C'est pour ça que je trouve votre initiative absolument remarquable. Je m'empresse de le dire, je sais qu'il y a un très bon travail qui se fait avec l'association des maires. Je suis venu avec une brochure, je le dis, parce que c'est un sujet épouvantablement compliqué, qui vous crée un souci constant, qui nous lie avec la préfecture, puisque je rappelle, c'est le préfet qui signe les soins sans consentement, et quand je demandais ce que faisait l'association des maires, mes collaborateurs ont le plaisir à dire qu'il y avait cette plaquette-là, donc je fais de la pub pour votre plaquette.
Merci.
Et je me dis que si d'autres associations d'élus veulent le faire dans d'autres départements, je les encourage vivement parce que je la trouve très bien faite.
Oui, voilà. C'est donc sur l'hospitalisation d'office.
Exactement. Alors maintenant, ça s'appelle soins sans consentement, et c'est encore plus complexe que l'hospitalisation d'office. Mais ça n'est pas la source de bagarre ici, dans le département, parce que ça a été très bien huilé entre les différents partenaires. Je voudrais, sur la question que vous évoquez, il y a donc une organisation très, très précise, et vous allez avoir nous avons apporté des documents. C'est Serge Moret, qui est le directeur de l'accès aux soins, qui est en charge de ce dispositif. Hein, donc c'est lui et Philippe Coudray, vous aurez leurs coordonnées dans le document. Le gouvernement a pris non pas conscience du problème, parce que tous les gouvernements le sachent, mais pour la première fois, je l'indique, il a voulu synthétiser un ensemble de mesures dans ce qu'il appelle le pacte territoire santé. Donc c'est une manière de mettre en cohérence des dispositifs qui existent. Moi j'ai plaisir à dire que dans ce département, beaucoup a été fait, et avant tout le monde. La question qui est posée maintenant, c'est comment faire en sorte que l'avance que vous aviez, on puisse la garder. C'est-à-dire que, vous allez le voir dans le PowerPoint qui est présenté, il y a un vrai maillage de maisons de santé pluridisciplinaires. Elles sont d'une génération très innovante. Peut-être qu'il y a des évolutions à trouver par rapport à ce maillage pour que cela corresponde vraiment à la thématique de l'offre de soins de proximité. C'est bien intéressant de commencer par l'exemple qui va être donné, parce que quelque part, on peut en tirer les leçons. En plus et en moins, on sait comme ça ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, j'allais dire que vous entendez toujours parler des problématiques hospitalières, des problématiques de médico-sociales, etc. Il y a une réalité, je le dis en hommage aux professions libérales, c'est qu'il n'y aura pas d'offre, et il ne peut pas y avoir d'offre de soins de qualité si la médecine de ville n'est pas au cœur du sujet. C'est le point d'entrée dans tout dispositif. Voilà, ça fait partie des accords. Alors une fois qu'on a dit ça, la question c'est pour vous, que ce ne soit pas de l'incantation, c'est-à-dire concrètement, quels sont les facteurs d'attractivité pour pour un territoire. C'est pour ça que je suis très content qu'on soit avec Raphaël. C'est que la question de l'attractivité, ça n'est plus seulement la question d'une ARS. Ça n'est pas forcément uniquement le maire qui peut. C'est vraiment une action de l'ensemble des partenaires. C'est vrai autant pour les élus départementaux, régionaux, locaux, mais également pour l'État avec les moyens dont il dispose. Parce que cette question de l'activité, c'est dans le système qui est le nôtre, hein, qui est un système dans lequel le gouvernement a réaffirmé qu'on n'agirait jamais par la contrainte. Hein. Et bien dans ce cas-là, il faut se montrer attractif, et ça n'est pas de l'ordre de... C'est des arguments rationnels, c'est aussi une attitude, un état d'esprit, une recherche permanente et une mise en cohérence des différents acteurs. Voilà, j'ai été déjà presque trop long, vous m'en excuserez, mais merci de votre accueil, on est très heureux d'être là et à votre disposition.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur Boyer, peut-être quelques mots également pour introduire.
Très peu de mots, parce que nous sommes surtout ici pour vous entendre. Merci madame la présidente, monsieur le préfet, monsieur le directeur, messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus et chers confrères. On est très honorés d'abord d'accueillir dans nos murs cette réunion importante et dont on espère beaucoup pour l'avenir. Le Conseil départemental de l'Ordre a été renouvelé il y a un peu plus d'un an et s'est donné trois priorités. Parmi ces trois priorités essentielles pour nous, l'une d'elles est l'accès aux soins. Pour favoriser cet accès aux soins en tout point du département et en tout point de la région, et en plein accord avec le président du Conseil régional de l'Ordre des médecins, le docteur Royaux, nous avons souhaité, avec les autres conseils départementaux, concevoir un projet de plateforme Internet, de plateforme interactive d'aide et d'incitation à l'installation des médecins en Lorraine. Cette plateforme est en train de se construire petit à petit, sur le plan technique, sur le plan matériel aussi, bien entendu. Elle sera l'initiative de l'ordre professionnel, mais elle ne sera rien sans les autres acteurs que sont la faculté de médecine. Et je voudrais souligner la présence ici du doyen Coudane, que je remercie beaucoup, des représentants des internes en médecine générale et en médecine de spécialité, qui sont finalement les forces vives qui vont garantir cet accès aux soins. De l'État, bien évidemment, je n'ai pas besoin de présenter monsieur le préfet et monsieur le directeur, mais tout ça ne sera rien si l'information n'émane pas des élus territoriaux qui mesurent au plus près les difficultés rencontrées par les administrés et par nos patients dans les territoires. C'est la raison pour laquelle on remercie encore une fois beaucoup madame Falk d'avoir créé et fait exister cette rencontre. J'espère beaucoup que ce ne sera pas la dernière et qu'elle sera le point de départ d'un travail de concert qui permettra d'avancer très loin dans ce travail dont, si je comprends bien, vous êtes chargé, monsieur Moret, et ma foi, le fait que vous en soyez chargé par monsieur Darcourt est de très bon augure. Chacun sait ici la qualité de votre travail et d'écoute. La seule chose que nous redoutions, c'est que vous soyez suffisamment bon pour qu'on vous enlève à la Lorraine, mais ça, c'est une autre histoire.
Si vous n'avez pas de questions préalables, mes chers collègues, dans ce cas, je vais proposer à François Genet de prendre la parole. Donc, avec le maire de Manière. Alors, à deux voix. À deux voix, le président et le maire de Manière.
Donc, bonsoir à tous. Merci, madame la présidente, de nous donner la parole et de présenter notre maison de santé et la réflexion qu'on en a faite. Alors, on va le faire à deux voix. Le pourquoi, c'est Pascal Burguin, donc, qui est le vice-président et qui est en charge qui était en charge de ce dossier plus particulièrement par rapport au groupe service, et en plus la maison de santé qu'on a créée, qu'on a construite est sur sa commune, c'est-à-dire à Manière. Donc je vais dans un premier temps vous présenter rapidement la communauté de communes, parce que comme l'a dit la présidente, c'est la problématique beaucoup à nos yeux du monde du milieu rural. Donc on est une intercommunalité très rurale, puisqu'on est 17 communes et on représente 4 500 habitants. Donc vous voyez, c'est une problématique qui est chez nous. Et la spécificité chez nous, c'est qu'on avait deux pôles, on a deux pôles avec des médecins. Donc il y en a déjà une partie sur le chef-lieu de canton qui est Gerbivier, où il y avait trois médecins. Donc qui sont âgés de 55 à 62 ans. Et il y avait sur un deuxième pôle, donc sur la commune de Manières, où il y avait un couple de médecins, dont le mari est décédé, je crois, en 2005. Donc là a commencé à avoir un manque de médecins sur notre territoire, où les habitants ou la patientèle commençaient à s'inquiéter. Et nous, ça nous inquiétait aussi du fait que le médecin qui est toujours sur Manières à 62 ans, donc approche de la retraite, est susceptible de partir dans 2 ou 3 ans. Et sur Manières étant une commune, frontalière avec les Vosges, donc beaucoup de patientèle venaient aussi des Vosges sur Manières. Donc un réel manque de médecins sur notre territoire. D'où cette réflexion de comment pallier à ce manque de médecins sur le territoire. Donc quand on sait que la problématique est également au niveau national, donc quand on réfléchissait, on disait il y a à la limite 2 solutions, soit on essayait de trouver un médecin et après on émettait les conditions pour l'accueillir, ou il y avait la deuxième solution, c'était de mettre les moyens pour l'accueillir et pour arriver à faire venir un médecin. Donc on a pensé que c'était celui-là qui était le plus opportun pour arriver à faire venir un médecin sur notre territoire. Donc il y a eu un groupe de services qui s'est créé au niveau... Enfin, notre communauté de communes travaille par groupe de réflexion, et donc il y a un groupe de services qui a été constitué. Donc il y a des habitants de la population qui y participent. Donc il y a eu cette réunion qui a décidé de poser la problématique et d'y réfléchir, où on y avait associé également des professionnels de la médecine, les médecins du territoire, qui les premiers nous disaient « si vous ne faites rien, on ne pourra pas tenir, et si vous ne faites rien, si on ne peut plus tenir, on sera les premiers à partir parce qu'on coulera sur les demandes, donc on partira ». Donc on devait se relever ce défi, donc d'où ce travail. Donc maintenant je vais donner plus la parole à Pascal pour vous présenter comment on a monté ce dossier pour y arriver, où on est arrivé et le résultat qu'on a aujourd'hui. Voilà, bonsoir Pascal, à toi l'entendre.
Oui, bonsoir à tous. Suite à, effectivement à la sonnette d'alarme qui avait été tirée par donc les professionnels de santé du territoire, on a défini un certain nombre d'objectifs sur le projet qui était effectivement de pérenniser un service de soins de proximité pour l'ensemble de nos habitants, d'être attractif aussi pour la population, mais aussi pour les professionnels de santé. Quand on dit ça, c'est aussi, dans cette problématique, permettre aussi une qualité de vie des praticiens sur le territoire, vivre à la campagne. On peut travailler à la campagne et vivre à la ville. C'est un peu ça l'idée. Redynamiser le tissu local et répondre aux besoins et garantir la juste répartition de l'offre de soins. On en a déjà parlé tout à l'heure. Les grandes étapes de ce travail-là, c'était 2006, donc un diagnostic du territoire qui faisait apparaître un déficit de médecins sur le territoire de la Mortagne, et puis la sollicitation des professionnels, notamment un professionnel, celui de Manières, mais aussi les autres, parce que l'ensemble des professionnels de Manières ou Gerbervillers, en fait on a 2 pôles, nous, assez distincts sur notre territoire, ont aussi tiré cette sonnette d'alarme en disant il faut faire quelque chose, si on fait rien, on met tout le monde par terre, quoi, finalement. Hein. Donc c'était un petit peu cette idée-là qui prévalait. 2007, on a inscrit dans le projet de territoire de notre communauté de communes une action pour le maintien d'un service public, d'un service de qualité et de proximité au niveau des soins, ce qui permettait d'inscrire cette action dans la réalité de ce que souhaitait l'ensemble des élus communautaires. En 2008, on a la mobilisation des professionnels de santé. Bien sûr, on a contacté les différents partenaires, donc l'ARS, notamment l'URCAM, reconnaissance d'un caractère déficitaire du territoire, validation du projet maison de santé, antenne de Manières. Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que notre souhait c'était aussi d'avoir un projet, on va dire, adapté en termes de taille, c'est-à-dire pas forcément d'en faire un projet immense, mais plutôt adapté, en se disant que tout ça va se jouer sur plusieurs années, et pas forcément sur un seul axe d'action. Peut-être, d'ici 10 ans, le problème se reposerait sur un autre secteur de notre territoire, et peut-être la conforter, cette idée de maison de santé avec plusieurs antennes. Donc antenne de Manières, maison de santé, donc validée sur le projet de et donc on a élaboré un projet avec les professionnels. Là, vraiment, c'est important, c'est-à-dire que nous, on est parti avec les professionnels, c'est-à-dire on ne s'est pas dit... bien sûr, on a eu cette réflexion de se dire est-ce qu'on fait avant, après, est-ce qu'il faut déjà le médecin avant, ou est-ce qu'on fait après, ce qu'a dit Philippe pour l'instant. Mais si on n'avait pas eu les professionnels, on ne serait pas parti. Si les professionnels ne se seraient pas engagés avec nous sur cette réflexion et sur l'idée de dire on travaille ensemble, vous les élus, vous les habitants, nous les professionnels, pour essayer de faire avancer les choses et essayer de trouver une solution finalement, on ne serait pas partis. Donc c'est vraiment avec eux qu'on a créé, qu'on a parlé dimensionnement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y met, quels sont les types de professionnels à accueillir. Donc ça c'est aussi plus loin que le médecin, hein, c'est aussi savoir ce qui manquait sur le territoire, donc un diagnostic assez précis, et on verra ce que ça a donné juste après. Et puis le recrutement d'un maître d'œuvre, parce que il y a de l'immobilier derrière, et puis on fait aussi, on travaille aussi dans ce sens-là. Donc, 2009, on a modifié les statuts de la communauté de communes pour pouvoir prendre cette compétence-là. Élaboration d'un projet architectural, bien entendu, avec un architecte. Recherche de professionnels, je dirais tout azimut, c'est-à-dire pas seulement médecins. On parle de beaucoup de médecins, mais c'est vrai que c'est la pierre angulaire. Mais aussi d'autres professionnels. Notamment, on verra après, manque d'orthophonie sur le territoire, manque de kiné, manque d'autres professions qui pouvaient intervenir sur le projet. Le projet est constitué dans une globalité. C'est pas seulement, même si l'objet était de maintenir le professionnel médecin sur le territoire et cette offre liée à la médecine générale. 2010, début des travaux. Donc les professionnels travaillent aussi entre eux pour élaborer un projet de santé. Ils sont engagés sur le territoire, donc sur l'ensemble du territoire de la communauté pour ce projet. Discussion avec les professionnels de santé sur les modalités financières, bien entendu, c'est aussi important. Ouverture de la maison de santé 2011, échange avec l'ARS sur le projet de santé. Donc ça, bien entendu, c'est ce qui constitue aussi l'âme du projet, le projet de santé, constitué par les professionnels, mais aussi avec les données locales. Le choix qui a été fait, c'est que les professionnels se sont mis donc en SCM pour pouvoir supporter, on va dire, les frais liés au bâtiment. Nous, au niveau de la communauté de communes, donc finalement, on loue le bâtiment globalement. Et c'est donc les professionnels qui sont à même de répartir leurs charges entre eux au sein de la SCM.
Société civile de moyens.
Société civile de moyens, pardon. Effectivement. Alors, tout ça, c'est cette recherche-là, elle se mettait aussi par de la communication, par qu'est-ce qu'on cherche, médecin, dentiste, kinésithérapeute, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette maison-là. Donc des contacts avec l'ordre des médecins, je me souviens d'être venu ici rencontrer quelques-uns d'entre vous. On a aussi travaillé avec la faculté de médecine, d'autres spécialités médicales. Donc contact avec l'éducation nationale, manque d'orthophonie aussi sur le territoire, participation à des colloques, notamment avec la FEMALOR sur les maisons de santé. Alors c'est une réussite, aujourd'hui on peut dire que c'est une réussite d'un certain point de vue. Le point de vue qu'on souhaite mettre en avant par rapport à cette réussite, c'est sur cette maison aujourd'hui, on a un médecin généraliste, deux infirmières, ils étaient déjà là avant. Par contre, une kinésithérapeute, et même deux, parce qu'elle est associée avec quelqu'un, donc le cabinet tourne pas mal au niveau de la kinésithérapie, un orthophoniste, une pédicure-podologue et une sage-femme à temps partiel qui sont sur la maison. Donc, en termes de, on va dire, de remplissage, si on peut dire ça, en tout cas les cabinets, les cellules qui ont été mises en place, tout est pratiquement plein, effectivement, à l'exception du médecin, et c'est effectivement ce point-là qui pose problème malgré toutes les démarches qu'on a faites et qui ont abouti quelquefois à des solutions, on va le voir, mais qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, on n'a toujours pas ce second médecin qui permettrait de pérenniser la structure complètement. À noter aussi que les professionnels ont déjà commencé le travail, collaboration avec la maison du diabète à Lunéville, avec la masse donc autiste à moyen de J.B. Thierry qui s'est mis en place, donc des conventions se mettent en place, tout ça pour un projet de territoire avec les habitants, mais aussi sur des structures spécifiques. Donc tout ça, c'est le positif, c'est on a réussi à faire venir de nouveaux spécialistes, kiné, orthophoniste, pédicure-podologue, sage-femme, sur notre territoire, ce qu'on n'avait pas avant. Mais toujours est-il qu'il manque ce médecin-là. Donc par rapport au médecin, désespoir possible, dans les deux sens de ce qu'on pourrait dire de ces deux mots-là. 2010, contact avec un médecin pour une installation. Un l'inclusion de ces desiderata finalement dans le projet, puisqu'on en était encore à la construction. Ah oui, tiens, la porte là, j'aimerais mieux la mettre là, et ainsi de suite. Donc on est vraiment rentré avec lui dans cette réflexion-là et dans le projet immobilier. Et finalement, les vacances sont passées, il est parvenu. Bon, soit. 2011, on rencontre lors d'un congrès Femalor un autre médecin qui, lui, est tout à fait dans cette veine-là, dans cette idée-là. Donc on ne tire pas de conclusion de tout ça, hein. c'est pas pour faire le haro sur le médecin en question, c'est pas ça l'idée, mais l'idée c'est de se dire qu'on a des difficultés et que même si on trouve un médecin à un moment donné, même si ce médecin s'est engagé auprès de nous par écrit, auprès des instances, je pense de l'ordre aussi effectivement, sur son installation, bah, aujourd'hui, en juillet 2012, il quitte la maison de santé et, sans donner d'explication alors qu'il était déjà remplaçant depuis un certain temps, enfin, tout semblait fonctionner correctement. Sans grande explication par ailleurs. Donc c'est vrai que nous, on est un petit peu démunis par rapport à ça. On se pose un certain nombre de questions sur comment arriver effectivement à trouver peut-être la perle, peut-être pas la perle, peut-être autre chose. Donc on cherche des solutions. Donc les solutions aujourd'hui qu'on envisage, c'est éventuellement le cabinet de recrutement pour recruter un médecin, voire un médecin étranger roumain, en l'occurrence, parce que c'est souvent le cas, avec toutes les précautions qu'il faut sans doute prendre, avec... mais en tout cas c'est peut-être une piste, voilà, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. On essaye de mobiliser le réseau des professionnels de santé et ainsi de suite pour essayer de trouver des solutions. On a travaillé avec l'ARS sur cette question-là, donc avec des contacts, mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas de solution immédiate. Alors, on est peut-être comme beaucoup d'élus ici, hein, à se dire dans notre secteur, on est en déficit. En plus, on a des médecins donc vieillissants, on l'a dit, avec un certain nombre de médecins qui risquent de partir à la retraite d'ici quelques temps. Donc la problématique n'est pas simple. Elle est aujourd'hui à court terme, mais elle est aussi à plus long terme. Et ça, c'est quand même pas... c'est pas simple. Alors, les enseignements qu'on peut tirer et les difficultés qu'on a, parce que c'est quand même ça qui nous réunit aujourd'hui, les difficultés de trouver effectivement le médecin pour nos secteurs ruraux, c'est de dire que c'est de toute façon un projet de longue haleine. Vous voyez, 5 ans pour arriver déjà à monter le projet en termes de réflexion. Alors de longue haleine, mais aussi nécessaire sans doute. C'est-à-dire que la réflexion, elle permet de construire le projet en termes de cohérence, en termes d'implantation sur un territoire et de bien analyser les éléments. Une mobilisation collective et partagée entre les élus, les professionnels de santé, les partenaires. Ça, c'est un point quand même relativement positif sur un territoire, de se dire on travaille tous ensemble pour arriver à faire avancer les choses. Mener de front un projet immobilier impliquant des aspects juridiques et techniques, financiers, et le projet de santé avec les professionnels. Donc tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et puis, effectivement, une déception suite au départ d'un médecin et on a noté, pas de moyen de finalement respecter des engagements pris. Oraux, semi-écrits, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, écrits par un moment. Et encore une fois, hein, c'est pas pour tirer sur tout le monde, c'est juste pour donner une expérience et donner aussi les difficultés qu'on a malgré les implications de tout le monde. Et en ça, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc c'est une réussite d'un côté, mais d'un autre côté, on n'a pas fini le travail et on souhaite le finir le plus tôt possible. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal. Le travail avec l'éducation nationale, tu as parlé.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le travail avec l'éducation nationale, c'est par rapport à l'orthophonie, c'est-à-dire que tout ce qui était réseau RAZ, ou en tout cas la prise en compte des enfants en difficulté, montrait aussi qu'il y avait des besoins sur un territoire liés à l'orthophonie. Et souvent, et on le constate notamment dans le Lunévillois, une surcharge où soit les parents n'ont pas les moyens de déplacer leurs enfants pour aller... faire même 20 km, 30 km pour aller chez un orthophoniste à la ville, pour nos secteurs ruraux, soit donc ils n'y vont pas, ou soit ils ont des difficultés pour y aller, et en tout cas, même quand ils veulent y aller, souvent c'est complet, quoi. Donc c'était aussi une problématique qui nous avait été remontée par les professionnels de l'éducation du territoire, que ce soit les directeurs, les enseignants, et même l'inspection d'éducation nationale qui nous avait alerté là-dessus.
Donc un beau travail partenarial entre les élus, les habitants de votre territoire également, les professionnels de la santé, un programme architectural également. Alors, on va parler pour les élus qui sont là aussi sur le poids financier, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous avez financé tout cela?
Alors, donc c'est un projet globalement 750 000 euros. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le projet, c'était aussi un projet adapté à notre territoire. C'est-à-dire l'idée, c'était pas forcément de faire quelque chose d'immense. On a 6 cellules, et vous voyez que les professionnels qu'on a sur les 6 cellules, certains partagent leur cabinet pour, je pense aux infirmières avec la sage-femme, ça se croise, mais ça se passe tout à fait bien. Voilà, et donc on a 6 cellules, donc on a tout un niveau donc adapté à l'accueil, et on a aussi un studio, salle de réunion, donc studio qui permet de suivre les gardes et donc de permettre à un médecin de suivre les gardes. C'est-à-dire c'est encore cette idée de ce que j'exprimais tout à l'heure, donnons les moyens éventuellement d'accueillir un professionnel qui soit travaille sur le territoire, mais qui ne vivent pas forcément sur le territoire. Et donc à un moment donné, s'il a besoin de rester sur ce territoire, et de toute façon ça fait partie des règles, je pense que ça pourrait être précisé, mais des règles d'une maison de santé, de permettre cet accueil d'un professionnel, même temporairement. Alors ça peut être le professionnel, on a envisagé aussi des étudiants, on a envisagé différentes solutions qui permettraient d'utiliser ce studio. Donc salle de réunion, parce que c'est bien évident que les professionnels travaillant ensemble, ça demande un espace de réunion. Bien sûr, toutes les commodités qui vont bien. Donc 750 000 euros, donc subventionnés à 80% sur des fonds d'État sur le FNADT, des fonds de FEDER, donc au niveau européen, le conseil régional et le conseil général sur une part territoriale. Donc équivalent à 20% de chacun de ces financeurs, les 20% restants bien sûr étant à la charge de la communauté. Donc nous le principe c'était pas de faire de l'argent sur cet aspect-là, hein, bien entendu, c'est avec un emprunt, c'est de récupérer au juste euro, on va dire, le coût de notre investissement. Voilà, donc je ne sais pas si je suis assez clair sur le financement. Oui.
Combien de mètres carrés pour 750 000 euros?
Alors on est sur 280 mètres carrés.
Enfin, le ratio de coût mètre carré qui...
Voilà.
C'est le plateau pour les praticiens. Donc.
C'est le plateau. C'est le plateau.
Mmh. Avec...
Oui, le studio est en plus, hein, pardon. Le studio est en plus et les espaces de stockage, hein, je ne rentre pas dans les détails entre le local. Le local d'archives, je ne rentre pas dans les détails, mais entre le local d'archives et d'autres locaux qui existent, bien entendu, c'est bien évident que tout ça existe dans ce bâtiment-là. Donc sur le point de vue financier, vous avez des questions?
Les praticiens deviennent-ils propriétaires à la fin, évidemment, de l'emploi? Parce que je pense que vous voulez les fixer localement, entre parenthèses, je ne veux pas vous faire peur, oui. Mais vous parlez de chercher un praticien, ça serait plutôt deux, parce que étant donné là,
on est bien d'accord,
le docteur Guittaire, c'est peut-être ça qui a fait fuir celui qui voulait fuir. C'est lui, finalement, bientôt, je vais me retrouver tout seul.
Donc, oui, peut-être, enfin, on était à 3 à 4 ans à l'époque, c'était bon. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu le retour. On n'a aucun retour. C'est compliqué. Donc, peut-être, mais peut-être que vous avez raison, effectivement. Effectivement, hein, sur cette question du deuxième médecin, c'est peut-être deux médecins qu'il faut effectivement trouver tout de suite. De toute façon, même si c'est un médecin là,
c'est un deuxième
dans,
bientôt.
Dans, oui. Dans 3-4 ans. Donc, oui.
Monter un projet de santé, il faut un minimum de médecins.
Oui. Voilà.
Alors, votre cas, si je peux me permettre,
oui.
Votre cas n'est pas un cas
isolé. Présentez-vous, si vous voulez, en prenant la parole.
Excusez-moi, c'est le président. Bonsoir, je suis donc Sylvain Monda. Je suis le président de l'association Big Bang.
Non, parlez. Désolé, on n'a pas de micro-baladeur, mais vous allez parler.
Je vais essayer de parler assez fort. Pardon. Peut-être que bonsoir, donc je suis Sylvain Monda, je suis président de l'association qui s'appelle l'association Big Bang, qui a pour but de lutter contre les désertifications médicales pour une proximité équitable des soins. Donc j'interviens J'ai présenté un rapport en mai 2009 au Sénat. Donc j'ai présenté un rapport au CERS sur les problématiques des causes médicales en France et les désertifications médicales que j'ai rendu public par un ouvrage qui s'appelle « Zone rurale à votre santé ». Parce que donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce cas que vous avez là n'est pas un cas isolé. Ça fait plusieurs années que nous travaillons sur la France sur ces problématiques des désertifications médicales. Et je reste sur la France, nous avons un cabinet de recrutement, vous avez dit des choses qui sont très importantes. Première chose, vous avez dit qu'un projet se construit au travers des professions médicales et paramédicales, ça c'est une chose très importante. Il ne faut pas faire un clivage, il faut que ce soit transversal. Il n'y a pas non seulement les problèmes, je veux dire, ce n'est pas seulement un problème de maison de santé, parce que c'est un problème qui doit être vu et géré dans la globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous manquons de 55 000 lits en maison de retraite. Première chose. Aujourd'hui, nous manquons de maisons de la naissance, donc développer la maison de la naissance. Aujourd'hui, au niveau des nounous, on va vous dire, on se retrouve dans une situation où on manque d'assistantes maternelles, et des assistantes maternelles ne peuvent pas être inscrites parce qu'elles n'ont pas des locaux qui sont adéquats. Donc c'est un problème qui va beaucoup plus loin que ça dans la réflexion. Vous disiez à juste titre, on va faire pour recruter à l'étranger. À savoir qu'aujourd'hui, donc nous avons un cabinet de recrutement, on travaille sur toute la France, l'Europe, hors de ses frontières. Prochainement, je pars sur la Réunion, la Guyane. Et aujourd'hui, on va faire appel, par exemple, à des praticiens, vous parlez roumains, à savoir que 80%, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des statistiques qui ont été rendues, notamment avec des conseils régionaux d'ordre des médecins, 80% des médecins étrangers sont en situation d'échec. Pourquoi ? Barrière de la langue. Deuxième chose, différence de la médecine. Aujourd'hui, la pratique médicale en France est différente par rapport à notre pays. Si vous prenez la Belgique, si vous prenez l'Espagne, si vous prenez l'Italie, il y a des différences, mais moins importantes. Mais plus vous allez vers les pays de l'Est, plus elles sont importantes. La pharmacopée, différente. L'organisation du système de la santé. Donc tout ça fait un sens. Je ne veux pas citer, monopoliser, je veux dire, le débat et comment dirais-je, la parole, fait que ces médecins sont en situation d'échec. Aujourd'hui, autre phénomène qui se produit, ce que vous avez dit à juste titre, nous n'avons aucun moyen de retenir un praticien. Que des choses morales. Un praticien peut avoir signé un contrat avec l'ordre des médecins, ce n'est qu'un contrat moral. J'ai rencontré M. Warsman, Monsieur le Président, président de la commission des lois, notamment dans le OHPST, que nous parlons.
Mais ancien président.
Oui, ancien président, excusez-moi.
C'est mon nature.
Voilà. Excusez-moi. Merci de rajouter cette précision. Et à qui j'ai dit, mais il y a certaines lois qui sont inapplicables. Exemple, aujourd'hui, dans la loi HPST, pour faire venir, inciter à faire venir des praticiens, c'est de donner des bourses en contrepartie d'aller sur une zone désertifiée. Qu'est-ce qui va obliger le médecin à rester ? Rien. La seule obligation que j'ai dit à M. Rossman, la seule obligation qu'il a, c'est de rembourser les sommes avancées. Parce que c'est contre la liberté d'installation des médecins, c'est contre le droit du travail. Donc aujourd'hui, si on veut mettre en place des projets, c'est en allant vers justement, j'ai entendu qu'il y a M. le doyen qui est là, vers les universités, j'ai eu l'occasion d'accueillir des jeunes carabins qui ne savent pas ce qu'est qu'une ZRR, qui ne savent pas quels sont les avantages dans les zones rurales. C'est pour cette raison que je me rapproche des universités pour aller déjà chez nous, je veux dire, inciter ces jeunes à venir. Mais c'est un problème, comme je disais, fondamental, je veux dire, assez large, parce qu'en fait, c'est un ensemble de causes qui entraînent des conséquences. Aujourd'hui, donc, on va chercher ces médecins étrangers en situation d'échec, on crée des déserts médicaux là-bas. Donc, c'est un problème de gestion de ressources humaines, non pas d'un point de vue national, mais d'un point de vue international et même mondial. D'ailleurs, ce rapport est repris par l'Université de Rennes, par une étudiante vietnamienne qui est doctorante. Et donc, par rapport à ces éléments-là, c'est de mettre, de créer aussi donc, des incitations. Il est vrai de faire venir des praticiens en zone rurale. Exemple, dans la loi qui vient d'être votée, dans la préconisation de 4 500 € pour un médecin à venir dans la campagne, moi je dis, je suis contre, ça ne sert à rien. Et je vous explique. Ce n'est pas la motivation d'un médecin d'avoir 4 500 €, puisque très rapidement, il va arriver à ce type de à son revenu. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que
si une commune où vous avez 300, 400 habitants, rien n'empêche à M. le maire de faire venir pendant 2 ans son praticien, qui va y avoir 4 600 euros. Comme j'ai pu entendre tout à l'heure, le médecin, il a gagné sa vie, et puis après, il va changer de commune. Voilà un petit peu. Donc c'est un ensemble de problématiques que je vous invite à retrouver sur dans l'ouvrage notamment. Merci.
Merci, Monsieur Bridin.
Monsieur Barcou. Pour revenir à Manière, parce qu'on a surtout besoin de bien clarifier les choses, donc il va falloir. Est-ce que à Manière, vous avez essayé, est-ce que le praticien qui intervient, le médecin, est maître de stage et est-ce qu'il peut accueillir des internes? Alors, c'est peut-être le point sur lequel je rejoindrai l'intervenant. Alors, oui, c'est probablement un des meilleurs moyens d'enrayer la situation actuelle.
Alors, elle était maître de stage jusque cette année, mais oui. C'est vrai que la charge qui lui incombe maintenant sur le niveau de santé ne lui permet plus de le faire. C'était aussi un des souhaits, un des projets.
De se dire,
on accueille, et d'ailleurs elle a accueilli des stagiaires qui étaient tout à fait, peut-être même partants pour venir après, mais ça veut dire à la fin de leurs études aussi, donc c'était pas forcément dans l'année qui suivait. Et c'est vrai que la charge aujourd'hui qu'elle a ne lui permet pas d'accueillir. Mais elle était tout à fait prête à le faire, hein. Elle l'a fait, mais jusque cette année-là. Donc c'est vrai qu'on tourne un peu.
Ça, c'est un vrai sujet.
Question des actes, président de la petite commune du pays colombien, du centre de Bois. Une question.
Oui.
Est-ce que vous étiez, est-ce que votre secteur, votre territoire était inscrit au schéma régional d'organisation des soins, au SROS, comme zone déficitaire? Pourquoi? Parce que notre petite commune a construit une zone santé pluridisciplinaire inaugurée en 2008 au sud du territoire de ces 40 communes. Là, on a un projet au nord de ce territoire. Et à chaque fois, on anticipe, comme vous l'avez fait, on anticipe sur les départs dans les 3-5 ans. Le problème, c'est qu'on n'est pas, on ne figure pas encore en zone désertifiée. Et aujourd'hui, les conditions de financement, je ne sais pas si vous avez une société, pour les aides de l'État et de l'Europe, sont l'inscription au SROS.
Alors, nous, on était à une jonction entre deux cartes et deux révisions de cartes. Et donc c'était pas très clair effectivement sur le fait qu'on soit dans cette zone effectivement, et on a mobilisé tous les moyens pour montrer qu'effectivement on était dans cette zone là. Juste une précision par rapport à ça, on est dans le bassin de Lunéville, et c'est vrai que quand on est à 25 km de Lunéville, et ben on est compté dans un ensemble, et les chiffres ça veut plus trop dire grand chose quand on prend tout ça globalement. Donc on a montré en accord avec l'ARS, c'est l'URCAD à l'époque, sur cette question-là. Et donc c'était juste au moment où les cartes étaient revues, donc on n'était pas dans le cadre précis, mais on a montré ce déficit pour pouvoir. Alors il y avait à la fois le déficit et le projet, et la dimension du projet. C'est-à-dire que ce qui a intéressé aussi les financeurs, c'est de dire que ce soit l'État, la région et les fonds fédères qui étaient aussi gérés par finalement la région. Finalement, la dimension du projet était intéressante pour pouvoir le financer. On n'était pas sur un projet à 3 millions, quoi. On était sur un projet à 750 000 euros.
Donc. Parce que nous, on a la chance, par contre, d'avoir des médecins qui veulent venir s'installer. Le problème, c'est le financement de la structure. Aujourd'hui, à part le conseil général, et le conseil régional qui, lui, n'exige pas l'inscription grosse, mais la question, est-ce que le SROS n'a pas anticipé, vu la durée du projet, en 2006, la première réflexion et l'inauguration, et vous comptez 5 ans, disons, donc on est bien dans l'anticipation nécessaire.
Oui, si vous me permettez d'autre précision, effectivement, donc le schéma, en tous les cas pour la Meurthe-et-Moselle, dans le nouveau schéma régional, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Hein. Il faut savoir que tout ceci est lié à des critères de population, enfin c'est des critères, je dirais, objectifs. Hein, donc je ne sais pas qui va s'exprimer sur le schéma, peut-être tout à l'heure, qui va expliquer, puisqu'il est un des artisans du schéma régional qui aboutit au mois de juillet, hein, après une série de concertations localement avec la région, les départements et autres. Donc il n'y a pas eu beaucoup de modifications parce que c'est ce sont des critères assez, assez contraignants, donc quantitatifs, un peu objectifs, et que d'autre part on ne peut pas zoner tout le monde. Bon, cela dit, vous avez ici donc un exemple qui est le sur Haroué, qui est la dernière décision du comité régional, où effectivement ils n'étaient ni en ZRR, ni en secteur prioritaire. Ils ont tout de même été retenus par le comité, parce que le conseiller général qui est ici, un certain nombre de personnalités, y compris moi-même, avons beaucoup insisté sur l'intérêt de ce projet. Il a tout de même été retenu, donc... sur le financement national et par la commission régionale. Bon, mais bien entendu, le schéma sert ensuite à prioriser. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le schéma, vous avez la DETR, si vous la demandez à 20 ou 30%, elle suit immédiatement, hein, elle est en haut de la pile. Les autres subventionnements du FNADT, en tout cas d'État, suivent aussi, c'est plus facile parce que c'est dans une priorité qui fait partie d'un schéma. Mais il y a toujours possibilité, hein, le conseiller général qui est ici peut en témoigner, de faire prévaloir également cette priorité-là. Il est sûr qu'il aura moins de financement public que s'il était dans la zone. C'est plus difficile, hein, parce que, bien entendu, ce schéma est fait avec la région, donc elle-même applique ce type de... mesure, et puis ensuite ça suit un peu moins si on n'est pas du tout zoné, quoi.
Il y a une précision à donner. En fait, les zones qui ont été retenues ici, donc qui sont arrêtées dans le projet régional de santé, ce sont les mêmes zones que celles qui sont retenues dans la convention médicale dont les médecins connaissent l'existence, qui a été signée il y a maintenant quelques mois. Il y avait un choix à faire. Il y a des régions qui ont retenu pour les maisons de santé pluridisciplinaires un autre zonage que le zonage, ce qu'on appelle le zonage conventionnel qui a été signé entre la CNAM et les médecins. L'avantage, c'est que ça donne beaucoup de souplesse. Parce que généralement, quand ils ont pris un autre zonage, ils ont élargi le maillage. Ça engage les collectivités locales au-delà de ce qu'un zonage strict créerait. Mais ça donne de la souplesse. Il y a un inconvénient majeur, c'est que la présentation est beaucoup moins lisible, parce que les gens finissent par ne plus s'y retrouver entre le zonage qui s'applique sous les mesures conventionnelles au bénéfice des médecins. C'est une convention, c'est celle qu'on appelle la convention P4P, qui est un truc intelligent, mais qui va mettre du temps pour s'établir. Je crois que ça marche bien, d'ailleurs, chez les professionnels, hein, monsieur le directeur, il y a eu un taux d'adhésion très élevé. Bon. Mais ça concerne uniquement les médecins. Alors ici, je crois qu'on a fait un choix qui est plutôt pertinent, c'est de dire on ne multiplie pas les zonages, il y en a un et un seul, c'est le même pour les dispositifs de subventionnement et d'aide à l'investissement pour les maisons de santé pluridisciplinaires et pour les professionnels médecins. Ça veut dire d'ailleurs que c'est une incitation puissante à ce que les médecins viennent travailler dans ces maisons de santé, parce que s'ils viennent y travailler, ils bénéficieront d'un certain nombre de points de la convention. L'inconvénient, c'est celui que vient d'indiquer le préfet, c'est-à-dire que, eh bien évidemment, quand on n'est pas exactement dans le zonage, eh bien, on essaie de tirer les choses, mais il y a des effets de bord. Hein. Et ce zonage qui a été établi ici, il a été fait, il vous sera, on y viendra peut-être dans la présentation en PowerPoint, oui. Il a été fait selon des critères qui étaient imposés par le niveau national, c'est-à-dire qu'il fallait que pas plus de 7,5% de la population régionale soit dans le zonage. Voilà, c'est ça. Alors on avait une limite quantitative, et le choix qui a été fait, je pense qu'il est tout à fait pertinent, et il a été, d'ailleurs ça nous crée des problèmes dans les zones urbaines ou périurbaines, il privilégie définitivement les zones rurales. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, vous avez des coins de la banlieue qui ne sont pas très bien desservis, et qui sont très mécontents parce qu'ils ne sont pas du tout dans aucun zonage. Donc c'est 7,5%, et bien voilà, si c'est à 9%, ben les 1,5% ils passent pas dedans, c'est l'inconvénient. C'est d'où le pragmatisme dont il faut faire preuve, parce que évidemment il y a des effets de seuil et des effets de bord, et c'est l'intérêt du comité qui réunit la préfecture, les collectivités, je crois que c'est le conseil général qui régional, général et régional, et puis nous-mêmes pour valider le projet de santé. Je crois qu'il y a
l'intelligence n'est pas absente des discussions et le pragmatisme non plus n'est pas absent.
Oui. Alors, si je peux me permettre, Président, d'ajouter un point. Alors, je ne sais pas si vous présentez la carte, là, tout à l'heure.
Oui, c'est vrai
qu'il la présente. C'est parce que, donc, il y a des éléments, là, qu'a collecté l'ARS très, très récent aussi sur les modifications sociologiques très importantes hein, de la médecine libérale. Ces modifications-là vont très, très vite et je pense qu'il est vraiment très important de les avoir, hein, ça rejoint aussi les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure. Ça permet de voir que les comportements changent très très vite, qu'on a une évolution vers le salariat des médecins libéraux, puisque les nouvelles générations, donc d'abord c'est plutôt des générations plus féminines, hein, puisque en ce moment les générations prennent le pas. Enfin, il y a des tableaux qui montrent tout ceci. Alors 7,5% de la population, c'est tout de même, comme on est un département assez rural, c'est autour de 40% tout de même du territoire, hein, si on regarde bien. C'est 35-40%. Hein. Parce que forcément, c'est dans des zones peu denses. Hein, donc.
Le problème de manière, c'est un problème que je connais un petit peu et en fait qui soulève plusieurs questions. Parce qu'en fait, donc, le secteur de manière n'était pas en zone déficitaire. C'est en zone de revitalisation rurale, ce qui explique le financement que vous avez eu, et en fait, il n'y a pas de financement de santé. Ben, le secteur, donc, était en zone, n'était pas en zone déficitaire. Comme vous l'avez dit, monsieur le directeur général, pour la Lorraine a été attribué donc le chiffre de Paris, qui y est de 7,5%, qui a été donc réparti sur l'ensemble de la Lorraine. Sur ces 7,5% permettait donc d'avoir, pour les zones qui étaient prises, des avantages conventionnels avec la nouvelle convention. Il faut voir donc qu'en Meurthe-et-Moselle, si on découpe à peu près en 30 secteurs bassin de vie, comme si on considère comme le secteur donc de manière gerbévillée comme un bassin de vie, on se découpe en 30 bassins de vie, il faut savoir que vous avez sur ces 30 bassins de vie, vous allez en avoir 10 qui vont perdre 50% de leurs effecteurs de terrain dans les 5 ans. Alors, est-ce que c'est 7,5% du terrain? Ça d'une part. D'autre part, donc, ce qui pose le problème, et on a eu le problème il n'y a pas longtemps, donc, pour le secteur de Badonvillé, où d'un côté le secteur de Ciré était en zone fragile, de l'autre côté le secteur de Blamont était en zone fragile, et au milieu, le secteur de Badonvillé n'était pas. Je tiens à remercier l'ARS là, qui a fait donc ce qu'il fallait pour équilibrer les choses. Sur le secteur de manière, ça posait aussi le problème. Donc vous parliez d'un médecin qui s'installait et qui pouvait aller habiter ailleurs. Il faut savoir aussi qu'on a mis le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à œuvrer pour permettre donc aux médecins d'adapter leur temps de travail, c'est-à-dire pour permettre ceci de venir travailler à un endroit, de pouvoir rentrer chez lui à distance, parce qu'on a mis un système de permanence des soins en place qui permet donc de se faire remplacer. Il faut voir que le secteur donc de Gerbéville et Manière n'adhère pas à ce système-là de la volonté de leurs praticiens. Donc on peut comprendre qu'en ayant 4 praticiens sur le secteur, avec donc une fréquence de garde élevée, ça puisse rebuter donc un jeune confrère de venir s'installer. Bon, d'autre part, il y avait d'autres problèmes aussi qui étaient faits. Bon, je dirais là, quelque part, je pense qu'on peut aussi un petit peu remercier le Solitaire qui s'était largement investi donc dans le projet, qui voulant faire venir donc le confrère, le temps qu'il passe sa thèse, qu'il investisse, a accepté donc de payer les charges de la SCM, de payer sur ses fonds propres. Mais je dirais quelque part, à un certain moment, le jeune confrère n'ayant pas satisfait à ses engagements, Madame Guiter, financièrement, s'est trouvée donc un petit peu coincée. Et je dirais là aussi, on peut dire merci donc à l'ARS, qui a trouvé donc un détail pour permettre au docteur Dicker de poursuivre son exercice sur manière, donc en aidant dans le cadre de ce financement-là. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a été monté d'une certaine façon. Qui avait donc certaines embûches pour la viabilité de ce projet. Maintenant, c'est vrai que si on veut faire, comme on l'a dit, donc perdurer le projet, l'installation et une offre médicale sur manière, c'est probablement un médecin rapidement qu'il va falloir trouver, un deuxième très rapidement aussi. Voilà.
Oui.
C'est ça, pour apporter une certaine précision justement au niveau des désertifications médicales. On dit désertification médicale. Première chose qui vient à l'esprit, c'est zone rurale. Deuxième chose qui vient à l'esprit, ce sont les médecins généralistes. Et aujourd'hui, je prends l'exemple, par exemple, à Étain dans la Meuse, nous avons installé un ophtalmologue. Nous sommes en train de créer, avec un groupe de travail, avec notre association, la mise en place de médecins. Étain, c'est 3500 habitants. 3500 habitants, c'est 27 praticiens qui vont venir. C'est-à-dire, mais je m'en explique, c'est-à-dire qu'il y a les médecins qui vont sur place, il y a l'ophtalmologue que nous avons installé, il a été installé en 2010, de mémoire, et là, il y a du travail jusqu'à la fin de l'année. Sur la Moselle, par exemple, la Meurthe-et-Moselle, puisque les maires de la Meurthe-et-Moselle, nous sommes en cours d'installer des ophtalmologues, mais aussi d'autres spécialités. Donc pour revenir un petit peu à ça, ce sont toutes les spécialités qui sont touchées. Ce soit les gériatres, les pédiatres, les cardiologues, les radiologues, les anesthésistes. Et en général, on dit ce sont les zones rurales, mais également les zones urbaines sont touchées. Exemple, dernièrement, j'étais invité sur une émission avec M. Capri. Je partais dans le Var. Il a été surpris. Dans le Var, on va installer une vingtaine de médecins. Près de Toulon, à Guerre. Cannes, que tout le monde connaît, il manque des médecins. Alors, il est vrai que la répartition territoriale, c'est une chose. Il est vrai qu'il y a plus de médecins dans les zones littorales que dans nos zones, mais il manque de médecins.
Oui.
Est-ce que ça répond à oui, ça répond à la question.
Je pense que oui, nous allons donc. C'est
monsieur c'est Philippe Coudray. Non, c'est Philippe Coudray qui va présenter, effectivement.
Vous avez peut-être qu'on peut distribuer les. Vous avez la copie papier du PowerPoint. Si on peut peut-être la distribuer, j'espère qu'il y en a assez.
Non, je profite.
Oui, mais allez-y.
C'est de vous avec la télécommande.
Je profite simplement de la présence du doyen pour rappeler un élément qui me tient à cœur, puisque effectivement on va aborder pas mal de cas un peu complexes sur le territoire de Meurthe-et-Moselle, mais ailleurs également. Je tiens simplement à rappeler que je vais peut-être essayer l'autre micro. Je tiens simplement à rappeler que pour la deuxième année consécutive, au titre des internes de médecine générale, et je vois que le représentant de Raoul IMG est là, bonjour Monsieur Henriot, nous avons quasiment fait le plein des postes offerts. Il faut s'en féliciter. C'est aussi une reconnaissance de la part de la faculté de médecine de Nancy du rôle joué par le département de médecine générale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, toujours pour partir sur une note positive, puisqu'ensuite on va avancer des éléments un peu plus compliqués, il faut savoir que c'est plus de 140 internes qui sont désormais formés tous les ans à la faculté de médecine de Nancy, sont pour deux tiers à 80% d'entre eux en fonction des années, lorrains. Donc ils sont issus de la Lorraine. Ils étaient en DCEM 4, en deuxième cycle, à la faculté de médecine de Nancy. C'est une force, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je rejoins parfaitement M. Darcourt dans le propos qu'il tenait tout à l'heure. S'il y a une chose à retenir, effectivement, c'est une chose que je rappelle systématiquement lorsque l'ARS se rend dans des réunions publiques, c'est que la notion de compagnonnage, c'est pas une notion éculée. C'est une notion absolument importante et je pense qu'au-delà du rôle légitime des élus, les professionnels de santé, les médecins généralistes en particulier, ont un vrai rôle à jouer. Alors, on a beaucoup de maîtres de stage en région Lorraine et on les en remercie. On les en remercie parce que ça n'est pas simple. Mais on est tout à fait preneurs d'augmenter ce taux de manière à faire en sorte que le jeune professionnel de santé, le futur professionnel de santé, puisse découvrir un territoire. Il découvre à la fois un métier. Parce qu'effectivement, il sort de l'hôpital et il découvre le métier de médecin généraliste, mais il découvre aussi un territoire, et ça, c'est un deuxième élément qui est absolument important.
Je vous remercie d'avoir souligné l'importance de ce compagnonnage. C'est un cadre fondamental de l'évolution de nos jeunes confrères et de nous autres moins jeunes. Mais peut-être, monsieur le doyen, vous avez un mot à dire sur cette évolution de la pédagogie des internes ?
Merci Monsieur le Président, tout le monde je pense l'entendra. C'est effectivement, comme le soulignait Monsieur le Directeur Général de l'ARS, un problème effroyablement compliqué. Maintenant, il y a un certain nombre d'aspects positifs effectivement en Lorraine. Le premier vient d'être cité par Monsieur Moret, c'est que depuis maintenant quelques années, l'ensemble des postes mis au concours à la suite de l'ECN sont pratiquement tous pris, alors que vous savez qu'il y a beaucoup de facultés de médecine qui n'en font pas le nombre de ce poste. La faculté de médecine a, dans l'interrégion, est la plus importante. On a un tiers d'étudiants de plus qu'à Strasbourg, pour vous donner une idée. Donc le département de médecine générale est un département qui marche très bien, mais pour ça, il a fallu que le doyen et le conseil de gestion mettent la main à la poche. C'est-à-dire qu'il a fallu nommer des professeurs associés, des maîtres de conférences associés, des professeurs titulaires, et vous savez très bien, monsieur le préfet, monsieur le directeur général de l'ARS, qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, on nous demande de prendre des postes dans notre tableau des effectifs pour les donner à la médecine générale. Ce que nous avons fait dans toutes les facultés de France, ce n'est pas la même chose. C'est une caractéristique du département de médecine générale, de leur investissement qui est apprécié, qui est un exemple français. Pour ça, il a fallu faire de la politique universitaire et je tiens une nouvelle fois à remercier publiquement l'ensemble des médecins qui s'investissent au sein du département de médecine générale. C'est la qualité de l'enseignement qui fait qu'on est attractif et qu'on remplit tous nos postes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est purement anecdotique, mais on a fait une enquête il y a 2 ans sur l'ensemble des DES d'anesthésie-réanimation. Les internes en DES d'anesthésie-réanimation, après bien sûr les internes en DES de médecine générale, c'est le plus gros groupe avec les psychiatres. Hein. Je vous rappelle que la médecine générale, c'est un DES, c'est un diplôme d'études spécialisées, comme les autres, depuis plusieurs années. Et on leur a posé la question, alors on a une formation en anesthésie-réanimation qui est très bonne. C'est-à-dire qu'on attire beaucoup, j'allais dire d'étrangers, c'est-à-dire de non loin. Et on leur a posé la question, ils sont environ 80, on a une grosse formation en matière d'internes, en DES, donc d'anesthésie et réanimation, quels sont les critères qui font que vous pourriez quitter la Lorraine? Le premier critère, c'était il n'y a pas la mer. Le deuxième critère, c'était il n'y a pas la montagne. Vous exagérez peut-être un peu. Vous pouvez aussi tous les jeunes, et c'est ce que vous soulignez, monsieur le préfet, ont des objectifs qui sont un peu différents de ceux que nous connaissions il y a encore, mon cher président, quelques années. Donc pour ça, maintenant que l'équation, mais ce n'est pas une équation de Schrödinger, hein, on peut trouver toujours des solutions. Et je me plais ici à dire de façon vraiment publique qu'il faut effectivement que l'interface entre la faculté de médecine et en particulier, je voudrais saluer M. Moret, vous aussi bien sûr, M. le directeur général, et qu'il faut entretenir de bonnes relations pour trouver des solutions. Et il y a cette, un petit peu cette cuisine interne qui fait que ça se marche plus ou moins bien. Meilleur exemple aussi, c'est qu'au niveau du conseil de gestion, alors là effectivement on est en Meurthe-et-Moselle, et moi, j'ai invité, vous le savez bien, monsieur le président, l'ensemble des présidents des conseils départementaux de la Meuse, dans lequel il y a des problèmes, des Vosges et bien sûr de la Moselle. Et on a aussi, on invite le président du conseil régional. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette interface, si vous voulez, sur le plan professionnel. Enfin, dernier point qui me paraît être important, c'est que sur le site de Nancy, donc on couvre les 4 départements, le stage obligatoire qui s'effectue pratiquement en FGSM 3, c'est les nouvelles, les stages obligatoires de 6 semaines en médecine générale, sont pratiquement tous pourvus. Donc c'est clair. Et c'est pas du tout la même chose dans les autres facultés de médecine. Maintenant, dernier point, en ce qui concerne les maîtres de stage, donc je me retourne vers le représentant des internes, voilà, très bien. Les maîtres de stage, on a engagé une politique, effectivement, de formation. Et là aussi, parmi les facultés en France, on est pratiquement la première à avoir autant de maîtres de stage. Ça a été souligné dans la présentation qui a été faite. C'est quand même quelque chose d'essentiel dans la fidélisation. Dernier point, il faut quand même bien le reconnaître, si l'on prend le devenir de l'ensemble des promotions qui arrivent, médecin généraliste, hein, c'est Bac plus 9 quand tout va très bien. Hein. Enfin, en même temps qu'ils fassent leur thèse et tout se passe bien, eh bien, il y en a que finalement 20 à 25% qui s'installent en libéral. Et c'est ce que vous soulignez, monsieur le préfet, c'est cet attrait Et là, il faut bien dire qu'il y a des décrets qui ont prévu qu'ils peuvent passer dans d'autres, entre guillemets, spécialités, que ce soit les urgences, la médecine légale, le droit de la santé, il peut y avoir l'allergologie, la psychiatrie, etc. Donc, ils changent. Et tout ceci, comme vous l'avez souligné, monsieur le préfet, c'est pour avoir un statut, on va dire, de... J'espère ne pas avoir été trop long, mais encore une fois, ces éléments que j'ai donnés, moi je pense qu'il y a ici en Lorraine, compte tenu de la structure du département de médecine générale et des actions que nous avons menées, parce que quand vous cliquez un poste de façon un peu vulgaire à la chirurgie orthopédique, aujourd'hui en chirurgie orthopédique, pour la donner à la médecine générale, les collègues, ils vous regardent quand même d'un mauvais œil. Hein. Mais ça, on l'a fait. On l'a fait. Parce que tout ça, on travaille nous aussi à coût constant, si je puis dire. Voilà, donc il faut continuer cette politique, et en tous les cas, le doyen et son conseil de gestion, on le fera pour la médecine générale. Je vous rappelle que c'est la plus grosse promotion d'interne de spécialité.
Pardon, sur les chiffres, excusez-moi, monsieur le doyen, de l'installation en médecine libérale, les derniers chiffres du Conseil national sont un petit peu différents, puisqu'ils nous donnent donc sur une tranche d'âge, 70% d'une tranche d'âge qui va s'installer en médecine salariée. Ils nous donnent 20,1% d'une tranche d'âge qui se destine aux remplaçants, 9,4% en libéral et 0,6% en exercice mixte. Donc c'est vrai qu'on a une explosion des remplaçants.
J'ai dit 20%, on va dire 10%.
Localement,
c'est à peu près, ça varie selon les années, entre 15 et 20%. Ce qui est peu,
parce qu'il ne permet pas d'assurer le renouvellement des départs en retraite, puisque je dirais malheureusement, quand on voit l'effectif des médecins généralistes donc en Meurthe-et-Moselle, on a par rapport donc aussi sur la place démographique donc du Conseil de l'Ordre, on a une diminution en Meurthe-et-Moselle de 9% des effectifs de médecins généralistes. Voilà.
Docteur Schlitter.
Bonjour, je suis médecin généraliste. J'ai en main le dernier bulletin national de l'ordre, démographie médicale, et ça va aller sur le but de deux nouvelles raisons d'espoir. Vous voyez, ça espérait. Pourquoi est-ce qu'il espérait? En 2007, lors de leur première inscription à l'ordre, seuls 10% des jeunes médecins avaient besoin d'exercice libéral. Maintenant, on doit être un peu moins. 5 ans après, en 2012, ils sont 35% exercés en secteur libéral. Ce constat est identique quand on étudie le devenir des médecins remplaçants qui sont désormais plus de 10 000. On va signaler qu'il y a 16 000 Bulgares et Roumains qui exercent en France. Beaucoup sont venus recrutés par des boîtes qu'on va appeler douteuses. Hein. Il y en a beaucoup qui s'installent un an à la campagne et comme tous les médecins français, désire après repartir en ville. Donc, pour la communauté de Madière, faites attention à l'agence de recrutement si vous souhaitez des Roumains. Ça, c'est un petit aparté. Alors, 10 000 médecins qui remplacent. Après 4 ans de remplacement, près de la moitié d'entre eux ont choisi d'exercer en cabinet individuel, quelle que soit la zone géographique, urbaine ou rurale. C'est intéressant. Les médecins exercent en majorité où ils ont été formés. L'attachement des jeunes médecins à leur région de formation. Près de 80% des médecins exercent dans la région où ils ont été formés. Même observation chez les médecins remplaçants en 2012, 47% se sont installés et une écrasante majorité d'entre eux, 88%, ont fait le choix de leur région de formation. Donc, quand on a une formation de qualité dans une région, les médecins restent. Voilà. Par contre, le vieillissement de la population médicale s'accentue. En gros, il y a 200 000 médecins en France, 599 921, et 23% ont plus de 60 ans. Donc, 23% vont occuper l'exercice professionnel à peu près entre 2017 et 2020. Donc, je vais arrêter là. Avec le docteur Senot, notre doyen.
Le doyen de notre conseil.
Notre président d'honneur, nous avions fait une étude sur la commune, sur le devenir et des équivalents temps plein dans la communauté urbaine du Grand Nancy. Hein, parce que l'ordre a un listing avec les médecins, leur âge, et on sait à peu près ce qu'ils font. Hein, s'ils font la médecine d'exercice particulier, s'ils travaillent à temps plein ou équivalent. Et je vais dans le sens du directeur général de l'ARS, c'est-à-dire que même en ville, hein, on va perdre dans la communauté urbaine du Grand Nancy 50% d'équivalent temps plein en 2020. Donc la désertification médicale touche tous les territoires nord-sud, un des lieux tropiques. Et puis bon, nous on est un peu protégés aussi par le sillon lorrain.
C'est-à-dire au niveau, donc, pour être simple, les entrées, qu'est-ce qui rentre dans la profession ? À peu près donc 10% sur une tranche d'étudiants, 700. Qui sort ? Les gens en âge de, les médecins en âge de retraite, aux environs de 1200 par an au niveau France. Et à ceci, il faut ajouter, l'année dernière, on a 903 confrères qui ont dévissé leur plaque de façon anticipée parce qu'ils ne trouvaient plus un intérêt dans la profession, parce qu'il n'y a pas de plan de carrière dans la profession. Donc, d'un côté, vous avez 700 entrées, de l'autre côté, vous avez plus de 2000 sorties. Voilà l'état de la démographie en France.
On va passer la parole, Madame la Présidente, si vous le voulez, à Monsieur Coudray de l'ARS, en soulignant un micro-point que vous contredirez ou pas, selon une partie des projections dont on dispose, le nadir, c'est-à-dire le point le plus bas de la population médicale libérale, et en particulier des médecins généralistes, s'établira seulement en 2020. Ça veut dire que d'ici là, d'ici 2020, on dégringole.
Voilà, la ministre l'a confirmé d'ailleurs dans son annonce.
Je suis d'avis de la ministre. Tout est bien.
Ouais. Alors, merci Monsieur le Doyen pour son intervention. Merci Monsieur le Doyen. Alors nous n'avons pas la mer, mais nous avons quand même de très beaux paysages. Les Vosges, proches, des lacs. Et
vous m'avez dit, Madame Fall, qu'on n'a pas la mer, mais on y travaille.
Oui, on y travaille.
Il y a un travail.
Bien sûr. Non, c'est un petit clin d'œil vis-à-vis de mes collègues du Badon-Villois et de la Haute-Bézouze, auxquels je demanderai aussi tout à l'heure de nous faire part de leur expérience, puisqu'ils sont dans l'expérience et ils sont confrontés à certains problèmes. Monsieur Coudray, je vous remercie de nous présenter votre PowerPoint.
Je vous remercie. Un certain nombre de choses extrêmement essentielles ont pu être dites au cours de ces échanges qui ont été riches. Donc considérez davantage mes propos comme une synthèse que comme une redondance. Alors je serai bref, vous retrouverez l'ensemble des informations ainsi que ce diaporama dans les pochettes qui vous ont été remises. Alors je commencerai rapidement par quelques éléments donc, de contexte démographique sur la base de l'atlas. Du dernier atlas qui a réalisé l'Ordre national des médecins. Donc juste un rappel qui est un petit peu tarte à la crème, il n'y a jamais eu autant de médecins qu'actuellement en France, sauf qu'on constate que le nombre de médecins actifs stagne depuis 2010 et que la part des retraités augmente et que cette progression devrait se poursuivre et s'accompagner donc, par une féminisation croissante et qui n'est pas un phénomène récent. En ce qui concerne donc la médecine générale, qui est reconnue comme le pivot du système de soins, les médecins généralistes représentent un peu moins de la moitié du corps médical en activité régulière selon les données de l'ordre. Leurs effectifs sont en baisse de 5% en 5 ans et que un peu moins des deux tiers d'entre eux, 60%, exercent en activité libérale exclusive, mais on constate un attrait croissant pour le salariat. On constate toutefois, selon les projections qui ont été établies par le Conseil national de l'ordre, on peut toutefois relever une relative inflexion puisque la progression entre 2012 et 2017 devrait être un peu moins forte que celle observée entre 2007 et 2012. Bon. La médecine générale, comme l'ensemble du corps médical, connaît une démographie vieillissante. L'âge moyen est de 52 ans, un peu moins du quart à 60 ans et plus, et les moins de 40 ans représentent un peu moins de la moitié de cette proportion, c'est-à-dire 12%. Quelques informations également d'ordre démographique, d'ordre général. Si on observe à l'échelle du département, on observe bien sûr avec une vision macroscopique, hein, générale, bien sûr, comme mademoiselle, densité en médecins généralistes libéraux, un peu plus supérieure à celle observée en Lorraine ou en France métropolitaine, avec une part de médecins âgés de 55 ans et plus, moindre à une proportion de femmes, un peu plus supérieure. Cependant, et c'est là le point majeur, c'est que cette vision macroscopique est très générale, ne doit pas masquer une répartition infradépartementale très inégale et qui est entretenue par les dynamiques actuelles dont j'ai rappelé certaines de manière non exhaustive et qui fragilisent les conditions d'accès aux soins. On constate sur cette carte où en fait une présence de médecins généralistes plutôt dans les zones plutôt densément peuplées. Alors, cela a été dit par l'ordre, le renouvellement des médecins généralistes libéraux est en question du fait de deux mouvements qui se conjuguent. Le premier, c'est une moindre impétence pour l'exercice libéral chez les médecins généralistes récemment inscrits. Donc juste un dernier chiffre en ce qui concerne la Lorraine, 19% des jeunes générations ont choisi l'exercice libéral. Et qui, de manière corollaire, on observe également un report de l'âge d'installation. Le deuxième mouvement qui vient renforcer également ou accentuer cette tendance, c'est une autre mouvement, c'est une tendance pour les jeunes inscrits à s'installer de préférence dans les zones les plus densément peuplées. C'est ce que illustre cette carte. Alors, au niveau national, en France métropolitaine, l'ordre observe que 82% des nouveaux inscrits s'installent de préférence dans les zones urbaines, ce qu'on observe également sur cette carte où les zones urbaines apparaissent en orange clair ou en jaune foncé. Ce qui veut dire, si on a une lecture en creux, cela signifie que ce mouvement contribue à renforcer la fragilité de territoires qui sont déjà moins pourvus ou qui sont en souffrance. Alors, au-delà des aspects quantitatifs, il ne faut pas oublier que le vieillissement de la population, donc qui est davantage prononcé dans les territoires qui sont en souffrance, ainsi que la prévalence des maladies chroniques et puis l'accompagnement de la dépendance, exerce une pression supplémentaire sur la prise en charge des besoins de soins des patients et des populations. Il faut aussi rappeler à ce stade du propos que la seule densité médicale est en elle-même insuffisante pour apprécier les conditions d'accès aux soins, puisqu'il faut tenir compte pour les apprécier également d'autres paramètres démographiques que la densité, et par exemple, sans être exhaustif, le niveau d'activité, tenir compte de l'âge et de la structure par âge des professionnels, de leur concentration spatiale, le fait que sur un territoire, s'ils sont concentrés en un même endroit, constitue une situation différente que s'il y a une répartition relativement homogène sur le territoire, tenir compte également de la situation observée dans les territoires voisins. Il faut également tenir compte de la démographie des autres professionnels de santé, tenir compte également des conditions d'accès aux médecins spécialistes, aux urgences, aux équipements, aux structures, mais également de la spécificité des territoires et des populations. Alors on a parlé des territoires qui seront identifiés dans le volet ambulatoire du SROSS, qui a été arrêté par l'ARS Lorraine cet été. Alors, bien sûr, une approche statistique a été en fait indispensable, mais cette détermination repose sur une démarche qui s'est voulue au plus proche des réalités de terrain, puisque 22 réunions départementalisées ont été organisées pour définir cette géographie d'application, réunions qui ont associé un large panel de partenaires, notamment les préfectures, l'assurance maladie, le conseil régional, les conseils généraux, les associations départementales des maires, les unions régionales du conseil de santé, les ordres professionnels, la FEMALOR, la Fédération Lorraine des maisons et pôles de santé, des représentants des internes, les représentants des usagers, etc. Également, cette détermination a fait également l'objet d'une consultation réglementaire prévue par les textes, mais également d'une consultation élargie sous la forme d'une consultation en ligne. Pour déterminer ce zonage, deux contraintes nationales se sont imposées, ont été fixées par le ministère. La première, c'est que le découpage géographique des zones devait être un découpage défini par l'INSEE. Alors, en Lorraine, on a considéré les bassins de services intermédiaires, c'est-à-dire ce sont les bassins sur lesquels le plus petit territoire, sur lesquels s'organise la vie courante et l'accès à l'emploi des populations. C'est un bassin qui est un petit peu plus restrictif que le bassin de vie. Et l'autre contrainte qui a été dite, c'est que la population résidant dans les territoires à définir ne pouvait dépasser 7,5% de la population lorraine. Alors, en Lorraine, donc 24 territoires, bassins de services intermédiaires ont été identifiés. Ils représentent exactement 7,5% de la population, 7,5% pardon, de la population lorraine, donc ils apparaissent en jaune sur la carte. Dans ces territoires, 125 médecins généralistes libéraux en activité sont installés, dont 83% sont éligibles à l'option conventionnelle démographie médicale, contre 49% au plan national. Donc une forte proportion de médecins généralistes qui sont potentiellement éligibles. Alors, j'en arrête là avec quelques éléments de diagnostic pour aborder les mesures, les actions. Alors, Madame la Ministre a annoncé en décembre le lancement d'un plan global de lutte contre les déserts médicaux intitulé le Pacte Territoire Santé, qui décline 12 engagements pour lutter contre les déserts médicaux rassemblés en 3 leviers principaux: changer la formation et faciliter l'installation des jeunes médecins, transformer les conditions d'exercice des professionnels de santé et investir dans les territoires isolés. L'ARS Lorraine va organiser dans les 2 prochaines semaines des réunions départementales de présentation de ce plan national, de ce pacte territoire santé, réunion de présentation et de concertation liminaire. Les habitations vont être lancées sous peu. Alors, l'ARS Lorraine, pour sa part, a anticipé cette feuille de route. Je soulignerai principalement 2 axes d'intervention qui ont déjà fait l'objet d'échanges. D'une part, on a souligné également l'importante adéquation de la répartition des stages entre les spécialités médicales. En médecine générale, 133 stages ont été pourvus sur les 137 offerts, une adéquation totale pour les autres disciplines. Cela également a été relevé, ce caractère essentiel, celui du compagnonnage, également de faire découvrir notamment l'exercice de la médecine générale et l'exercice de la médecine dans ses différentes composantes le plus en amont des études médicales. C'est le développement de stages de médecine générale. 100% donc des étudiants de second cycle font un stage de médecine générale. Mais également, cela concerne le développement des stages ambulatoires chez les internes de médecine générale, cela a été dit. Il s'agit également d'encourager le développement des stages en périphérie pour les autres spécialités dans les cabinets libéraux. Également, soutenir le poste internat pour contribuer à fidéliser les internes qui ont été formés dans la région. Notamment, l'ARS finance la création de postes d'assistants spécialistes temps partagé pour les spécialités et les disciplines qui sont les plus déficitaires. Vous avez les chiffres sur le slide. Et puis également un autre axe d'action sur la formation, c'est également de favoriser l'exercice partagé entre activité libérale et activité en établissement qui répond à des aspirations qui sont exprimées. L'autre levier d'intervention, c'est favoriser et accompagner l'évolution des métiers et des compétences. Alors, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert. L'ARS a autorisé un certain nombre de protocoles, j'en citerai 3, protocoles d'échographie qui associent des médecins radiologues et nucléaires à des manipulateurs en électroradiologie médicale. Également, l'autorisation d'un protocole ASALI qui associe donc des médecins et des infirmiers. Une réflexion est en cours sur un protocole AVK qui lirait donc des médecins, des infirmiers et des pharmaciens. Et puis au-delà de l'autorisation de protocole, Il faut souligner également l'acquisition au sein de la maison de santé de Bugnéville d'un rétinographe non médiatique. Je me suis concentré, vous avez vu, j'ai fait des efforts, j'ai pris sur moi, je me suis lancé et c'est passé sans trop de dommages. Non, au-delà de la plaisanterie, en fait, qui permet l'utilisation de ce rétinographe par un orthoptiste sous la supervision d'un médecin ophtalmologiste. Bon, et bien sûr, on en a largement parlé, un troisième axe, c'est le développement des maisons de santé pluridisciplinaires. Alors là, je vous ai présenté un zoom sur la Lorraine. Alors, en Lorraine, il y a 23 maisons de santé aux structures apparentées qui sont en fait en fonctionnement. Une particularité, parce que c'est lié à une genèse qui est assez ancienne, la quasi-totalité ont été créées ou élaborées avant la création de l'ARS, donc avant en fait 2010. 5 maisons de santé sont en fonctionnement en Meurthe-et-Moselle, à Longwy, Mercy-le-Bas, Brin-sur-Seille, Céret-sur-Vesoul, Manière, dont on a parlé. Et 13 projets ont été retenus depuis juillet 2010 dans le cadre du plan national qui a été lancé pour développer les maisons de santé au niveau national. Alors, en Meurthe-et-Moselle, il s'agit des projets d'un Villaujard, de Bayon et d'Arroule. Alors, les maisons de santé constituent un levier, une solution, ce n'est pas la solution pour consolider l'offre de soins. Alors, les maisons de santé constituent en effet une forme rénovée d'exercice regroupé, rénovée dans le sens où elle repose sur une coordination formalisée entre les professionnels de santé qui est formalisée dans un projet de santé. Ces maisons de santé doivent réunir sous un même toit au moins 2 médecins généralistes et une profession médicale. Ils peuvent associer d'autres professionnels de santé qui exerceront dans la structure soit de manière permanente, dont la structure sera le lieu principal d'exercice, ou alors sous forme de consultation avancée ou de vacation. Alors, ils sont une réponse à des attentes multiples, d'une part pour les professionnels de santé, notamment pour les jeunes générations, puisqu'elles sont réputées contribuer à l'amélioration des conditions d'exercice. Pour la population y trouve une prise en charge coordonnée qui est réunie en un même lieu, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques. Et je voudrais souligner que dans le cadre des assises des territoires ruraux de 2009, l'accès aux soins et l'accès à la santé a été exprimé comme étant la première préoccupation des populations rurales. Et pour les élus, les maisons de santé participent à la consolidation de l'offre de soins de proximité et à la politique d'aménagement du territoire. Alors, les maisons de santé en Lorraine connaissent une dynamique historiquement soutenue en Lorraine, notamment depuis 2004, puisque la région Lorraine a été région expérimentale. Dynamique qui est renforcée depuis juillet 2010, comme je l'ai dit, par un plan national d'équipement qui couvre la période 2010-2013. En région, la mise en œuvre de ce plan national est mise en œuvre conjointement par le préfet de région et par le directeur général de l'ARS, qui sont chargés de réunir un comité de sélection régionale. Alors, ce comité de sélection régionale associe les préfets, le conseil régional, les conseils généraux, les unions régionales des professionnels de santé, les associations départementales des maires, notamment. Ce comité de sélection régionale a une double vocation, d'une part, de sélectionner les projets qui pourront bénéficier de crédits nationaux de l'État à l'investissement, et également de coordonner les différents financeurs publics à l'investissement. Alors, pour ce faire, l'ensemble du projet, du dossier est étudié. Son implantation à sa dimension territoriale, c'était un point qui a été abordé. Le projet de santé, le volet immobilier et le plan de financement. Alors, comment construire une maison de santé? Je passerai vite sur cette diapositive. La phase initiale, c'est sur la base d'un diagnostic. Une maison de santé est avant tout une réponse particulière à un besoin territorial particulier. Donc, il faut d'abord d'esquisser la circonscription territoriale du projet, étudier son opportunité, sa faisabilité, réunir déjà un noyau de professionnels de santé qui seront prêts à s'engager dans l'aventure et dans l'opération, et à partir de là, pour ensuite élaborer le projet de santé qui est vraiment l'essence même, la structure, la colonne vertébrale d'une maison santé. Puis, projet, ensuite, que le projet... Alors, une fois que le contenu a été défini, il convient de définir le contenant et donc d'élaborer le projet architectural et puis ensuite de déposer un dossier pour solliciter des financements publics. Entre le moment où la réflexion, où le projet commence à être élaboré et le moment où les problèmes de santé s'installent, ils s'écoulent en moyenne 3 années. Donc c'est vraiment un projet de longue haleine qui nécessite une certaine anticipation. Alors on a parlé des soutiens financiers, là encore je serai rapide puisque un certain nombre ont déjà été évoqués. Alors, en ce qui concerne les soutiens financiers à l'investissement, qui ne peuvent dépasser 80% du coût total de l'opération, c'est-à-dire que la part d'autofinancement de la part de la collectivité locale devra représenter au minimum 20% du coût total de l'opération hors taxe. Donc on a parlé notamment des fonds européens, des crédits états déconcentrés, de subventions pouvant être accordées par le conseil régional ou par le conseil général, et puis également de crédits états nationaux, notamment au travers du FNADT section générale, qui est mobilisé in fine. À côté de l'investissement, en fait, des subventions pour la construction, pour le bâti, également, l'ARS apporte également un soutien à l'ingénierie et au fonctionnement pluriprofessionnel, au travers d'un fonds qui s'appelle le fonds d'intervention régional, qui auparavant s'appelait le FIX, ça parlera peut-être davantage à certains, et d'un montant de 50 000 euros maximum. Donc cela n'est pas destiné à financer la construction, mais la mise en œuvre de la coordination de l'exercice pluriprofessionnel au sein de la structure. Et puis il y a également, pour mémoire, également eu des soutiens donc, à des actions innovantes, qui ont également été versés aux professionnels de santé qui se sont engagés dans ce qu'on appelle des expérimentations de nouveaux modes de rémunération qui sont une alternative au paiement à l'acte. Alors, les soutiens publics, voici leur répartition. Donc, en Lorraine, en moyenne, on observe que parmi les projets de maisons de santé qui ont été soumis au plan national d'équipement, qui ont été retenus dans le cadre du plan national d'équipement, pardon, en moyenne, un projet de maison de santé en Lorraine s'élève à un peu plus d'1 400 000 euros. En ce qui concerne l'investissement, l'opération est financée en gros pour un tiers, 32%, par la mobilisation de fonds européens, essentiellement le FEADER et des fonds État. Et les collectivités territoriales abondent en moyenne à hauteur de 30%. La part est un peu plus, la part est plus importante de 10 points par rapport à ce qu'on observe au niveau national, et ce qui permet de réduire également la part d'autofinancement, puisque la part d'autofinancement en Lorraine représente grosso modo 38% contre 46% au niveau national. Alors, pour l'ARS, au niveau de l'aménagement du territoire, l'ARS est particulièrement vigilante et attentive quant à deux éléments qui sont importants. D'une part, c'est le zonage, c'est-à-dire l'implantation de la structure et sa dimension territoriale qui est appelée à s'inscrire dans un portage extra-communal et en fait s'inscrire dans une dimension extra-communale pour assurer une coordination des initiatives sur une échelle territoriale élargie et donner une cohérence territoriale au projet. Également, c'est pour éviter le fait que des communes isolées, trop faiblement peuplées, ne supportent à elles seules la charge financière d'une telle opération qui, en Lorraine, en moyenne, s'élève à 1 400 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième élément, et là, cela a été diversement dit, et je tiens également à insister à nouveau, c'est le projet de santé et la qualité du projet de santé, non seulement en ce qui concerne l'organisation et la coordination interne à la structure, mais également les coopérations que les professionnels de santé soient également tissées avec l'ensemble des acteurs participants à l'offre de soins sur un territoire. L'enjeu est double, c'est de créer des structures qui accueillent des professionnels de santé, qui accueillent des professionnels de santé. Et le deuxième enjeu, c'est de pérenniser, du moins gager la pérennisation de ces structures, créer des maisons de santé, c'est bien, le fait qu'elles perdurent dans le temps, c'est mieux. Et je voudrais juste rajouter un élément par rapport à ce qui a été dit, qui peut sembler un aspect mineur, mais qui, dans les cas, peut parfois se révéler comme étant une pierre d'achoppement, c'est la question des loyers. Puisque l'autofinancement qui est supporté par la collectivité locale, qui est propriétaire des murs, est financé par un emprunt bancaire qui est lui-même dont le remboursement est assis notamment en partie ou tout en partie sur les loyers qui seront demandés aux professionnels de santé. Et qu'on voit bien le lien qu'il y a entre le montant total de l'opération, la part de l'autofinancement, et la question des loyers. Il est tout à fait important que les professionnels de santé aient émis leur accord le plus tôt possible quant au montant global de loyer qu'ils devront collectivement verser, mais également quant à la répartition de ce loyer entre eux. Les besoins d'un médecin généraliste ne sont pas ceux d'une infirmière, ne sont pas ceux d'un masseur-kinésithérapeute, ne sont pas ceux d'un chirurgien dentiste, s'il y en a. Alors, pour établir bien sûr ce projet nommé de santé, il existe un cahier des charges qui est là pour soutenir également la réflexion. Et au titre de l'ARS Lorraine, je tiens également à vous dire que les services de délégation territoriale se mobilisent pour accompagner les porteurs et les promoteurs dans la conduite et dans l'élaboration de leur projet. Eh bien, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. J'espère n'avoir pas été trop redondant.
Merci beaucoup, M. Coudray, pour cette présentation. Je crois que nous allons maintenant donner la parole aux collègues qui, j'imagine, ont de nombreuses questions. Je voudrais vous saluer, Mme Durand, donc présidente de l'Ordre des pharmaciens.
Voilà. Moi, je voudrais juste un petit peu insister sur le fait que chez nous, les pharmaciens, on ne déplace pas une pharmacie comme ça. Et on ne peut pas créer, d'ailleurs, aujourd'hui, de pharmacie. Il n'y a pratiquement plus de création possible, sauf dans des villes nouvelles autour de Paris, peut-être, et encore. Et donc, moi, j'insiste un petit peu sur le fait que tout projet, ça doit un peu aussi intégrer cette donnée. Parce que ça me semble aberrant d'aller coller une maison de santé pluridisciplinaire dans une commune où de toute façon il n'y a pas de pharmacie. Pourquoi ? Parce qu'on va aller piquer, on a vu qu'il y a un vrai problème de démographie médicale, donc on va aller prendre des médecins pour aller nourrir cette maison médicale et on va aller faire mourir le confrère peut-être qui sera installé dans la commune voisine parce qu'il se retrouvera sans praticien. Donc je crois qu'il faut qu'on soit cohérent et de toute façon je pense que la logique est quand même plutôt d'aller vers les pharmacies puisque, alors non pas qu'on a envie d'aller se marier avec le pharmacien du village ou la pharmacienne du village, mais parce que là où il y a des pharmacies, il y a de la population. Alors, je sais que là, vous êtes des merdes un petit peu partout et que chacun voudrait, comme à une époque, chacun voulait sa pharmacie, mais aujourd'hui, peut-être qu'on veut aussi chacun sa maison pluridisciplinaire. Mais je crois qu'il faut être cohérent, il faut peut-être s'appuyer sur l'existant pour pas aller déstructurer. Alors, on l'a vu, nous, notamment dans les Vosges, où il y avait dans les vallées vosgiennes, on a eu des maisons pluridisciplinaires dans les endroits, et où alors, dans la vallée suivante, le pharmacien qui reste dans le village, il pleure parce qu'il est vraiment mis en difficulté, et ça veut dire qu'on peut perdre des pharmacies, parce que je crois qu'il faut quand même pas se... Enfin, j'attire votre attention sur le fait que la pharmacie, aujourd'hui, elle connaît des difficultés financières, et qu'on a identifié au niveau de l'ordre national, les pharmacies les plus en difficulté, c'est celles, justement, là où il n'y a plus qu'un seul prescripteur, et que ce prescripteur, dans 2 ou 3 ans, peut-être 5, peut-être 10, va partir, et le pharmacien, il partira aussi. Ça, c'est plié d'avance. On vit, on est quand même très dépendant de nos prescripteurs, et pour qu'une officine soit viable, il lui faut au moins 2 prescripteurs. Je crois qu'il faut être raisonnable. Merci.
Oui, merci.
Je voudrais rebondir, parce que ce que vous avez dit, c'est tout à fait essentiel, c'était ce que je suggérais dans mon propos en arrivant, en disant que vous avez vécu la première génération des maisons de santé. Maintenant, je pense qu'il y a une notion qui va aller un petit peu au-delà de la maison de santé, c'est l'idée du pôle de santé. Il faut qu'il y ait une masse critique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la maison de santé, c'est la maison de santé quand elle est adossée à une pharmacie, quand éventuellement il y a un laboratoire médical qui n'est pas loin, quand de surcroît, et c'est un vrai atout de votre territoire, il y a un maillage hospitalier qui est exceptionnel ici. Il y a beaucoup de régions qui n'ont pas cette densité hospitalière. Elle crée des problèmes que nous ayons traités par ailleurs. Mais enfin, il y a bien cette notion d'hôpital de proximité. Donc je crois que maintenant, dans la réflexion, il faut s'habituer à ce que le maillage de maisons de santé soit peut-être pas aussi diffus qu'il l'a été et être attentif à la question de la masse critique. C'est aussi parce qu'il y a une masse critique que les étudiants viennent. Pour un étudiant en médecine générale, c'est utile d'être adossé à un hôpital. Ça lui permet d'élargir un peu ça, son panel de pratiques. c'est également ce qui lui permet, le cas échéant, d'avoir des horaires plus compatibles avec sa vie personnelle. C'est vrai aussi, c'est lié à la féminisation. Donc je crois que la dimension que vous avez donnée, je pense qu'elle est tout à fait essentielle. Il va falloir qu'on l'introduise peut-être un petit peu plus dans la politique en matière de maison de santé. Il faut l'introduire d'autant plus que je voudrais indiquer un deuxième point qui rejoint ce qu'a dit le vice-président et puis le médecin qui commentait les propos du conseil de l'ordre. On ne peut pas parler de maison de santé, vous avez vu qu'il faut 3 ou 4 ans dans le meilleur des cas pour en sortir une, sans faire de la prospective. Peut-être ce qu'il faut ajouter aux travaux très remarquables qui ont été conduits et dont on a parlé, un document de prospective, c'est-à-dire qu'on est capable, avec les pyramides démographiques, et on les connaît assez précisément, hein, puisqu'on a des zones, on sait, on peut faire des hypothèses sur les sorties d'école, entre guillemets, on sait très bien ici qu'il y a un très bon rendement de ce côté-là, il faut, c'est une action que nous allons engager, il faut que dans les 4 mois, 4 à 6 mois à venir, nous commettions ensemble un document qui fera la prospective et qui dira en 2015 ce qui se passe et en 2020 ce qui se passe. Et nous pouvons le savoir relativement précisément, zone par zone. Cette prospective, c'est ce qui nous permettra peut-être de bien adapter ou de mieux adapter le moment venu, le zonage actuel, puisqu'il est évident que ce zonage, il n'est pas fait pour durer 20 ans et qu'il n'a de sens que s'il colle à la question de la prospective. Troisième et dernier commentaire. Vous le voyez dans la présentation des mesures du pacte territoire santé. La question que nous avons à traiter, elle est multifactorielle, le diagnostic qui dépend de plusieurs facteurs. Par conséquent, la réponse, c'est une palette de solutions. Je le dis parce que parfois on peut avoir tendance à dire les praticiens territoriaux en médecine généraliste, qu'on appelle les PTMG, qui sont une des mesures dont vous avez parlé, techniciens. Après tout, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que c'est la combinaison de ces différentes mesures qui fait qu'on peut arriver à endiguer la situation actuelle. Donc ne prenons pas, on n'a pas parlé des contrats d'engagement de service public, qui sont modestes, hein, mais il y a moins bon que la Lorraine. Il y en a 14 qui ont été signés. Bon, alors on peut dire ça ne fait que 14. En deux mots, hein, c'est les internes sont rémunérés un montant qui est significatif. Et en contrepartie du bénéfice de ce montant, il s'engage à exercer dans une zone déficitaire pendant la même période de temps que celle pendant laquelle ils ont été payés. Bon, il n'y en a que 14, notamment parce qu'on n'a pas été assez clair sur la nature de l'engagement, comme vous l'avez dit, et puis on ne sait pas très bien ce que les zones deviendront dans 4-5 ans, si c'est la durée de leur engagement. Mais ce sont toutes ces mesures qui, une par une, agrégées et prises dans la dynamique que vous avez indiquée, font que l'installation, quelque part, on revient à cette notion essentielle, devient attractive. Il y a également la combinaison, je le dis devant le directeur de la CEPAM, parce que, quelque part, la convention qui a été signée en juillet, elle est tout à fait essentielle. Hein. Il faut que tout ça se combine avec l'effet de cette convention. Et cet effet, il ne se mesurera que dans les mois à venir. Pour l'instant, il est relativement faible. Donc, voilà, on a un système qui est assez compliqué, c'est vrai. Hein. Je terminerai en disant que donc Philippe Poudray, il est désigné le référent installation. C'est-à-dire qu'il a laissé ses coordonnées, alors c'est une prise de risque, hein, dans les prochaines. Ce n'est pas son numéro personnel, ça on le garde encore. Enfin, vous savez comment le contacter. Il s'appuie, sous l'autorité de Serge Moret, que vous connaissez bien, il s'appuie sur les délégations territoriales et nous sommes dans une logique d'accompagnement et de promotion de l'ensemble de ces mesures qui sont, me semble-t-il, quelque chose qui est bien adapté à un système qui, je le rappelle, reste un système libéral.
Merci. Monsieur le directeur, je suis heureux de vous entendre parce que certaines invitations ont été faites dans ce sens-là. En invitant les pharmaciens, sans oublier la caisse, sans oublier la faculté, parce que effectivement, il y a un véritable pôle qui doit se faire, et tout le monde est un rapprochement direct avec les pharmaciens, avec la caisse, avec les médecins, et les ordres doivent être force, à mon avis, de proposition, et non pas attendre que ça tombe, parce que quand on voit ce qui se passe au niveau, quand même, que ce soit la loi Juppé, avec le BICA, ça a été catastrophique. Pour les 50 000 euros qu'on nous promet, bon, bah, écoutez, ça fait sourire un petit peu les médecins, parce que celui qui est tout seul, eh bien, se retrouve avec beaucoup plus d'émoluments que ceux-là. Alors, je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Puis, d'autre part, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il faudrait quand même revaloriser la médecine générale. Ça ne doit pas être une sous-spécialité. Si on la considère, j'ai entendu notre doyen qui disait que c'était une spécialité à part entière, il faut vraiment que ça soit considéré comme une véritable spécialité. D'autre part, dans 5 ans, et ça, effectivement, ça va devenir, du point de vue démographique, on a vu qu'il y a beaucoup de médecins qui vont prendre leur retraite. Alors simplement, si je pouvais suggérer que les médecins retraités soient incités à travailler, et ils demandent pas mieux, seulement quand on voit de nouveau qu'ils doivent repayer les caisses, etc. Finalement, du point de vue financier, c'est absolument pas rentable, ils ne veulent pas y aller. D'autre part, on peut se poser les questions sur les remplaçants. Alors là, je parle à titre personnel, est-ce que on pourrait pas limiter 3 ans, peut-être, et à ce moment-là, ils pourraient, s'ils veulent pas s'installer, être les collaborateurs dans certains postes qui pourraient aider ceux qui peuvent être au bord du burn-out. Et puis après, après, il y a des autres discussions qui peuvent se discuter sur la cartographie, bien sûr, des installations, mais ça, c'est un autre problème.
Mais merci de ces points. Sur les pôles de santé que vous évoquiez, monsieur le directeur général, on a une expérience qui est pour l'instant limitée dans le département. Elle est beaucoup plus grande dans le département de la Meuse. Et je remercie les conseillers départementaux et le président du conseil départemental de la Meuse d'être présents. Peut-être qu'ils ont un mot à dire sur ces expériences-là, même si ton expert, Jean-Michel, Olivier Bouchy, n'est pas là ce soir.
Effectivement, n'est pas là. Dans la Meuse au niveau des maisons médicales, maisons de santé pluridisciplinaires, comme ça, comme vous voulez, pôles de santé, on est assez bien passé, du fait que ce placement de nombreuses parties de la Meuse en passé. Les pôles de santé sont très intéressantes, je pense. C'est une manière, à l'heure actuelle, certainement, d'aborder les meilleurs pour aborder les choses. Je voudrais dire tout de suite, Dr Cros a dit des choses intéressantes. On ne s'est pas trop posé la question de savoir pourquoi les jeunes ne s'installaient pas en libéral. Et je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Dans le projet de pacte territoire, il y a des choses intéressantes. Il y en a qui sont déjà en application, mais il faudrait peut-être essayer de d'inciter les jeunes à s'installer. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'installent pas? On a une réflexion à ce sujet avec le Conseil national. Il y a d'abord un certain nombre de tracasseries administratives, et notamment des caisses, qui ne voient plus les jeunes. Il y a des actes, ça a été dit. Il y a également une peur de l'installation libérale. Peur de l'installation libérale parce que les jeunes ont une reconnaissance. Pour quelle raison ils ont une reconnaissance? Parce qu'on ne leur apprend pas ce que c'est que l'installation libérale. Il est vrai que la faculté, si on ne les forme pas trop à l'exercice libéral, on essaye, avec l'ordre, malgré un petit peu, de faire des initiations, mais ça reste quand même assez. Il y a également quelque chose qui recrute aussi un peu plus les jeunes, c'est les gardes. Non pas qu'ils refusent l'école. Mais les gardes en nuit profonde sont une pierre d'achoppement et on l'a constaté avec la réforme qui a eu lieu et mise en place en Lorraine au 1er avril, ça s'est assez mal passé pour moi, mais les nuits profondes ont constitué vraiment un gros souci. Donc pour terminer, je voudrais quand même donner quelques éléments positifs, à savoir qu'il faut insister pour que les médecins généralistes soient maîtres de stage. Je pense que c'est capital. Si en Meuse, on a réussi à avoir un certain nombre d'installations, une vingtaine dans les 2 dernières années, c'est parce qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont impliqués, qui sont maîtres de stage, qui ont donc des stagiaires à partir du 2e cycle maintenant, pendant le 3e cycle, et qui sont SASPA. Je pense que les SASPA, c'est très important pour pouvoir fidéliser et attirer des jeunes. Ensuite, il y a les SASPA qui ont bien souvent des remplacements,
ou à la notion de collaborateur. On n'a peut-être pas tout à l'heure, ça a été évoqué, la notion de collaborateur. C'est très important. Un médecin qui veut partir, il faut qu'il prenne un collaborateur. Il faut déjà qu'il se fasse remplacer. Et ensuite, qu'il prenne un collaborateur. C'est comme ça qu'il arrivera à trouver un successeur. Sinon, le successeur, il ne viendra pas tout seul, il ne tombera pas du ciel.
Je crois que justement, on peut remercier le doyen Coudam d'avoir favorisé l'accès des ordres au niveau de la faculté et avec le département de médecine générale d'avoir mis nombre de stages en place pour permettre à nos jeunes confrères qui avaient une culture en formation, qui avaient une culture de l'hôpital, qui n'avaient pas de culture de la médecine générale, de venir sur le terrain pour les découvrir. Et grâce donc à votre action, monsieur le doyen, vous avez permis d'ouvrir donc à nous, aux étudiants, sur le monde de la médecine libérale, sur le monde extérieur, pour la faire découvrir. Et on espère bien donc récolter les fruits de cette ouverture au niveau des installations.
Bien, merci messieurs. Je voudrais, si vous permettez, que mes collègues puissent poser les questions qu'ils ont d'ores et déjà préparées. Je pense que nous avons déjà répondu à un certain nombre. Par exemple, mon collègue André Barbier posait la question du niveau de financement, du niveau de subvention pour une maison de santé. La vôtre, donc, sera estimée à 2 millions d'euros, n'est-ce pas, André? Voilà. Donc, est-ce que tu as obtenu réponse dans ce qui a été proposé, présenté, ou as-tu besoin de... Voilà.
Des réponses partielles, bien sûr, pour obtenir le financement souhaitable. Mais aussi, je pense que les collectivités locales qui souhaitent l'implantation d'une maison de santé pluridisciplinaire doivent aussi se prendre par la main et donner aussi un petit coup de main s'il le faut. Je me félicite justement de l'agrément de santé, monsieur le préfet, monsieur le directeur. Je crois qu'il y a un élément que vous n'avez pas signalé. On a déjà une maison de santé depuis 25 ans à Rouen. Elle ne correspond plus demain aux besoins pour 2015 et après. Par contre, il y a un esprit qui fait que les 25 personnes qui travaillent sont toutes ensemble pour pousser la culture pour le santé. Je dis pour le santé, Jean, puisque c'est pluridisciplinaire, mais je parle comme vous, monsieur le directeur de l'ARS. Il faut aller demain vers les pôles santé, de façon à ce qu'on ait encore des médecins 10 km, 15 km, mais qui aient la volonté de travailler ensemble.
Merci André. Monsieur le maire d'Atrise, est-ce que vous êtes là, mon cher collègue, qui posait la même question sur les subventions?
Soyez attentifs au coût des maisons. J'adore les architectes. Enfin, ils ne sont pas là pour mettre des toits de chaume en Lorraine, hein, si tant est qu'ils aient envie de le faire. Donc, c'est pour ça que je pose la question sur le nombre de mètres carrés. Oui. Bon, moi j'ai en tête des références de coûts au mètre carré. Il faut être maintenant, l'argent public est évidemment très très rare, et il faut que vous soyez très rigoureux, et pas de... Les espaces communs, on les réduit, les salles d'attente, c'est la même chose pour les infirmières et pour les médecins. Autrefois, c'est vrai que ça pose un problème, les médecins voulaient des salles d'attente différentes, bon, c'est fini. Bon, donc tout ça, soyez très très exigeants. Pardon ?
Les salles d'attente médecins et paramédicaux, on peut les mettre ensemble.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais en 2012, en 2013, si. Non. Ça, il faut dire les choses, si vous voulez. Hein. Il y a un certain... Moi, je le dis comme je le pense. Je pense qu'il y a des positions qui doivent évoluer. Alors, je viens d'un pays, près de la mer, où ce point-là, il est acquis maintenant depuis longtemps. Bon. Les maisons de santé qui sont validées, ce sont des maisons de santé dans lesquelles les salles d'attente sont communes. Je ne vois pas pourquoi, quand on attend devant l'infirmière, c'est pas la même salle que devant le médecin. Franchement, écoutez. Donc, je sais bien qu'il y a des positions ordinales, je ne connais pas la position d'ici, mais j'insiste sur ce point. C'est des facteurs d'économie, et il faut le dire comme c'est, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ferait des salles d'attente différentes, hein? Mais je ne sais pas, peut-être ici le problème ne se pose pas. Hein, bon, ben voilà, c'est clair. Voilà. Mais si vous avez bien fait de poser la question, parce que parfois il y a encore des interrogations. Voilà. Mais je pense qu'il y en a encore.
Je pense que pour un cahier des charges type, c'est peut-être M. Coudray qui serait notre interlocuteur sur le...
Le cahier des charges est disponible sur le site internet. Hein.
D'accord.
Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'ARS de Lorraine.
où vous pouvez télécharger ce cahier des charges. De la même façon, effectivement, les pôles de santé ont été abordés. Il y a eu une réflexion menée avec les représentants des professionnels de santé et un cahier des charges sur les pôles de santé est également disponible et téléchargeable sur le site de santé, sur le site internet de l'Agence régionale de santé de Lorraine.
On va terminer avec la question donc des financements. Je ne sais pas, docteur Colombo, qui représente le Conseil général. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, docteur.
Madame Colombo. Le responsable du service départemental de protection maternelle à l'infantile n'est pas très versé dans le domaine des finances, malheureusement. Il reste que ce sont les conférences.
Approchez-vous, docteur.
Territoriales qui, j'ai vu dans la précédente diapositive, que le financement était variable. Effectivement, ce financement est présenté, enfin la demande est présentée en conférence territoriale.
Bien sûr.
Et c'est à ce niveau-là que le vice-président territorial, en fonction des besoins et du projet, se prononce sur l'investissement que le Conseil territorial c'est de trouver une convergence avec effectivement les orientations aussi du Conseil général pris pour ce territoire-là.
Nous sommes plusieurs conseillers généraux, nous confirmons que les dossiers sont examinés en conférence territoriale. Merci. Merci, docteur.
Je me permets peut-être de rajouter qu'en tant que médecin responsable du service de protection maternelle à l'infantile, je crois savoir que un des pôles de santé permet aussi de concevoir une ouverture vers l'accueil de consultation de la petite enfance, puisque la démographie médicale est problématique pour la médecine générale, mais elle l'est encore bien davantage pour ce qui est des compétences pédiatriques. Or, la protection maternelle et infantile représente encore une possibilité d'apporter à Ciré-sur-Boutouze, à Valonvillé, à Jacques-Vallée, des consultations avancées qui sont aussi de première attention à la population. Et je crois qu'il y a un vrai intérêt commun, peut-être à de temps en temps, pas systématiquement, mais lorsque les besoins sont présents, de pouvoir organiser, penser aussi, pourquoi pas, l'installation de consultations de la petite enfance.
Oui.
Et là, je pense que
oui, c'est un point important, mais merci Madame Colombo de l'avoir évoqué. Est-ce que mes collègues de Badonvillé, de Ciré, voudraient s'exprimer?
Je vais apporter un petit témoignage, si vous voulez, puisque bien que notre maison de santé ne figure ni dans celles qui sont en service, ni dans celles qui sont en construction, et pourtant, on l'achève.
Je me suis rendu sur place à trois reprises. Hein.
Non, mais oui. Sur le livre, elle n'apparaît pas, mais elle apparaît sur la carte.
Oui, voilà. Ce qui importe, c'est qu'elle apparaisse sur la carte, puisque sur le listing n'apparaissent finalement que les maisons qui ont déjà vu le jour, où les professionnels de santé ont déjà emménagé. En fait.
J'ai vu encore ce jour.
Sur la carte, mais moi je la connais. Je me suis rendu à trois reprises. Je pense que le docteur Lecomte et le docteur Kennel est très content
aussi d'arriver à réaliser cet outil sur le secteur de l'emploi, parce qu'effectivement, c'est non pas. Parce qu'on est en manque de médecins, puisqu'on n'était pas en zone déficitaire, mais c'est aussi un gage d'avenir pour tous les professionnels de santé, puisqu'effectivement, je pense que l'exercice d'une médecine, quelle qu'elle soit, elle doit se pratiquer au milieu de confrères, et c'est beaucoup plus intéressant d'être effectivement dans une maison de santé pluridisciplinaire que d'être chez soi, dans son cabinet, pour pratiquer une quelconque forme de médecine. Mais nous, par contre, madame Colombo vient de dire, on a adjoint à notre maison de santé aussi les services du Conseil général, puisque effectivement on aura deux médecins, une kiné, trois infirmières. On a aussi un pôle PMI, de petite enfance du Conseil général avec assistante sociale, et on aura aussi une permanente du CPN.
Ah oui.
De Nancy. On s'aperçoit, nous, depuis qu'aujourd'hui qu'elle arrive, on arrive à son ouverture, puisqu'elle devrait ouvrir le 1er janvier, on a beaucoup de contacts de professionnels de santé qui souhaiteraient y venir, y faire y passer une demi-journée, que ce soit des pédicures, orthophonistes, mais On sent aussi que c'est un véritable moteur pour effectivement arriver à avoir une pratique pluridisciplinaire dans ces maisons de santé. On a eu la chance, nous, sur notre territoire, d'avoir des médecins qui se sont complètement investis, hein, qui ont monté le projet médical. Et d'ailleurs, elle a été validée grâce à ça, puisque nous sommes en zone de revitalisation rurale, mais pas en zone déficitaire. On a eu un petit désagrément dernièrement quand même. On avait 3 médecins qui devaient intégrer la maison de santé. Donc, on avait 4 médecins sur Badonville, mais un a préféré conserver son cabinet médical et pas intégrer la maison de santé. Mais par contre, sur les 3 qui devaient intégrer, on vient d'en perdre un, puisqu'ils ont eu l'opportunité à 2 médecins de pouvoir reprendre un cabinet médical en milieu urbain. Et donc, on a eu le départ d'un médecin qui devait intégrer la maison de santé. Voilà.
Et quelle incidence au niveau des subventions sur le fait que Badonville ne soit pas en zone déficitaire?
Je pense qu'il n'y en a pas eu. Je ne pense pas qu'il y en ait eu. On est en zone de revitalisation rurale.
Oui,
donc, on bénéficiait de certains fonds par rapport aux zones déficitaires et qui ne sont pas en zone de revitalisation rurale.
Je pense, monsieur le maire, qu'on peut souligner une réactivité tout à fait remarquable des services de l'Agence régionale de santé pour accompagner ce projet.
Et du conseil.
Merci. Voilà.
Parce que pour permettre donc l'installation et l'informatisation au sein de la maison médicale, l'ARS vous a fait profiter donc des fonds FIR.
Oui, complètement. Complètement, qui plus est, on va bénéficier aussi d'une desserte sans la fibre optique, qui va nous permettre aussi, dans un deuxième temps, d'avoir beaucoup plus de possibilités à travers peut-être bien la médecine, si un jour, effectivement, il y en a la possibilité. Mais on a aussi la chance d'avoir 2 médecins formateurs. Ceux qui intègrent la maison de santé sont médecins formateurs. Et sans ça, c'est un très gros avantage qui permet effectivement de recevoir des étudiants en médecine ou des remplaçants. Et la maison de santé leur permettra effectivement d'exercer leur métier dans d'excellentes conditions. Et je crois que c'est un des atouts qu'on peut avoir par l'intermédiaire des maisons de santé.
Merci, Bernard. Philippe Arnoux, président de la communauté de communes de la Haute-Vezouze, voudrais-tu nous faire part de ton expérience?
Donc, Cirès, c'est un toit en chaume, hein, si j'ai bien compris, puisque c'est une toiture végétalisée. Je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie des toits de chaume, mais bon, pour le moment, ça n'a pas brûlé, le toit s'est pas envolé. Alors, notre maison de santé, c'est une ouverture en 2009. Je regarde René, le maire de Cirès-sur-Vezouze, le vice-président. Donc, fin 2009, bon, alors avec exactement les mêmes histoires que celles de Manière et de Badonville, c'est-à-dire une défection de médecins entre le moment où on a élaboré le projet, où il se finalisait, et un médecin qui n'y est pas entré. Alors même qu'on avait modifié à sa demande les locaux, on a abattu des murs, etc. Donc voilà, bon, bah ça je crois qu'il faut le savoir, quand on est élu, ça fait partie de l'histoire de la construction d'une maison de santé. Tout ça a fait suite à une grave crise, je crois, en 2002, où sur les 3 médecins, 2 ont dévissé leur plaque à quelques semaines d'intervalle, donc ce qui a été particulièrement grave pour un canton qui compte à peu près 3500 habitants, et on va dire en termes médicaux qui ratisse un peu plus large, puisqu'il y a le côté mosellan qui est proche. Et hélas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'est finalement pas très loin de la situation d'origine. J'espère que c'est temporaire, avec un médecin qui est en maladie. Donc il reste le médecin historique finalement dans la maison de santé, le remplaçant des 2 médecins. Donc ce que je me dis depuis le début, c'est que c'est vrai que la maison de santé ne peut pas être la réponse à tous nos problèmes. Et quand on entend les problèmes de démographie médicale, j'ai rencontré il y a quelques semaines 2 médecins libéraux qui étaient installés sur la Côte d'Azur, qui avaient à peu près une cinquantaine d'années. L'un était installé depuis 30 ans et sa femme depuis je ne sais pas combien de temps, qui quittaient leur cabinet pour aller s'installer en Ardèche, parce qu'ils en avaient assez de leur pratique libérale sur la Côte d'Azur. Donc je crois que fondamentalement, moi je me pose quand même des questions. C'est la question des gardes, parce qu'on a dit que les jeunes médecins ne voulaient pas faire de garde, mais les gardes usent les vieux médecins aussi, en contrepartie, je le constate. Donc je me demande s'il ne faudrait quand même pas réfléchir à ce problème de garde, c'est-à-dire si les médecins libéraux généralistes ne peuvent pas avoir des vies de salariés tout en étant libéraux, je parle en termes d'horaire. Bon, c'est peut-être un rêve, mais c'est une question que je me pose. En tout cas, s'ils veulent vivre leur profession comme ça. Et la deuxième question que je me pose sur les maisons de santé, c'est l'animation du projet projet médical qui a été mis en place au départ, parce que nous n'en avons pas la capacité, nous les élus, c'est pas du tout notre domaine. Et donc là, je trouve qu'il manque un peu quelque chose, surtout dans les maisons de santé où les médecins libéraux, s'ils sont deux, s'ils sont trois, sont quand même un peu isolés. Donc qui peut animer ce projet?
Oui.
Il y a des réponses sur cette question-là, monsieur le doyen, et sur le rapprochement des maisons de santé et de l'université, enfin de la faculté plus exactement.
Alors il y a là aussi une bonne nouvelle, puisque à la demande du collège des enseignants de médecine générale devrait être créé, ils appellent des maisons universitaires, je me tourne vers
les
représentants des internes, ils doivent connaître.
Universitaire de santé et territoire.
Présentation à la dernière conférence plénière des doyens du mois de décembre. Et c'est le président donc, du Conseil national de la médecine générale qui nous a présenté ça. Alors il y a quelques doyens qui ont poussé quelques trucs d'entrée, au lieu de dire, parce qu'ils se sont dit, ça y est, ça va être une fac dans la fac et ben, Moi j'ai demandé une proposition pour cette idée, il faut que ce soit structuré. Alors grosso modo, c'est une maison médicale, mais avec les universités. Alors c'est une famille de maîtres de conférences, de maîtres de stage, qui peuvent effectivement accueillir ce qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est une option qui devrait se développer courant 2013. On va essayer de faire accélérer. On a déjà des idées pour en créer, on va dire. C'est-à-dire où encore actuellement, parce qu'il y a une négociation avec l'UMG, le département de médecine générale, mais pour le faire, c'est le point qui répond un tout petit peu au moins à votre deuxième partie de question. La première est essentielle, c'est une question, on va dire, qui n'est pas si subliminale que ça, puisque c'est travailler en libéral, mais avec un esprit de salarié. Alors là, vous avez eu raison de poser la question. Ce n'est pas la question qui tue, ce n'est pas la question qui fâche, mais par rapport aux jeunes, effectivement, c'est un élément. À mon âge, je fais partie des 60 ans, c'est pas un sou. Je prends des gardes, encore, à l'hôpital. Écoutez, c'est épuisant à mon âge.
Il y a deux réponses précises. Je trouve que, petit un, je pense que la question des nuits profondes est posée. Je le dis très clairement.
S'il vous plaît, M. Darcourt, la nuit profonde, c'est
la nuit profonde. C'est la garde de permanence des soins ambulatoires entre minuit et 7 heures du matin.
Minuit et 7 heures.
Et je sais que dans ce département, il y a un travail remarquable qui a été fait. Et en gros, partout, il y a une garde de nuit profonde. Mais je connais des pays près de la mer où il n'y a pas de garde de nuit profonde. Et la qualité des soins est équivalente, parce que tout simplement, s'il y a une difficulté, dans ces cas-là, on va aux urgences, et les urgences entre minuit et 7 heures du matin ne sont pas saturées, contrairement à ce qui se passe en début de soirée. Donc je pense qu'il y a une réflexion qu'il faut avoir sur ce sujet. Et c'est une forme de réponse, ça allège la suggestion qui pèse sur les praticiens qui font les gardes. Deuxième question qui complétera celle de la réponse de monsieur le doyen. Ce que vous dites est tout à fait essentiel, c'est-à-dire que dans une maison de santé, les praticiens, ils considèrent que ils ne peuvent pas avoir à leur charge un certain nombre de tâches administratives, animer un projet de santé, développer de l'éducation thérapeutique, développer des actions de prévention, c'est du temps. Et il faut comprendre que c'est une réflexion du gouvernement. Actuellement, les modes de rémunération de ces activités-là ne sont pas satisfaisants. Alors, ça a été présenté dans les transparents, et je le dis pour le directeur de la CEPAM, je pense que ça, il faut que ça bouge. C'est une expérimentation qui s'appelle les nouveaux modes de rémunération. Vous avez 6 maisons de santé qui ont bénéficié de ce dispositif qui consiste a versé une dotation qui est versée à la maison de santé, pas dans la poche des praticiens, parce qu'ensuite, quand ça rentre dans une poche, c'est difficile de l'en faire sortir. Donc, c'est bien versé à la maison de santé pour prendre en charge tous les aspects administratifs et de prévention qui sont essentiels dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et nous, ARS, nous demandons que ce dispositif des NMR, nouveau mode de rémunération, soit étendu. Parce que, quand ça existe, ça répond parfaitement aux soucis que vous indiquez, ça décharge les praticiens de cette, à la fois des tâches administratives et des tâches qui sont actuellement, il faut le dire, mal rémunérées, parce que le paiement à l'acte, il n'est pas satisfaisant du point de vue des actions de prévention. Donc ça, c'est à mon avis une évolution que le gouvernement, qu'il faut prendre en compte. Alors ça pose des problèmes de financement, mais ce sera la vraie réponse à votre intervention qui est tout à fait forte.
Merci, M. le directeur. Je voudrais encore présenter les quelques questions donc, qui émanaient des collègues. Monsieur Barotin de Velaine, vous êtes là? Velaine Sousamons. Voilà. Sa question concernait les laboratoires. Il demandait si les laboratoires vont être réintégrés dans des centres hospitaliers ou être regroupés en de grosses unités. Les laboratoires de campagne, comme celui de Champenoux, sont-ils amenés à disparaître?
Il y a des discussions sans fin sur le sujet des laboratoires. Donc, moi, je réserve ma réponse. Je ne sais pas, Serge, si vous avez un élément là-dessus.
Non, l'élément, il concerne surtout, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de la taille critique. Et c'est vrai que Mme Durand est parfaitement au courant. C'est extrêmement compliqué. Il y a en plus des contraintes et des normes qui sont de plus en plus pointues, aussi pour des questions de qualité, de sécurité des soins. Ce qui fait que, par conséquent, dans certains endroits, on observe effectivement des fusions de laboratoires. Alors, pas spécialement une relocalisation à l'hôpital, ce n'est pas ce qu'on observe, mais des fusions de laboratoires. Et effectivement, ça accompagne un mouvement général qui parfois touche aussi certaines pharmacies, vous l'avez cité, mais c'est surtout la partie laboratoire qui est le plus citée. Voilà, c'est ce que je peux dire, taille critique et effectivement des normes qui s'imposent, notamment en termes de matériel.
Oui, en fait, le problème des laboratoires, c'est un problème national. C'est-à-dire qu'on arrive par le jeu de la législation qui a autorisé les rachats entre eux et on a fait des super gros groupes. Et il va bientôt rester pratiquement plus de laboratoires en France. Les laboratoires de biologie médicale, ça va être 4, 5, 6 sur le territoire et ils sont tous, c'est des petits frères. Et c'est quelque chose sur lequel on est, nous, très attentifs, puisque on partage avec l'Ordre des médecins les laboratoires de biologie médicale sont à la fois inscrits à l'Ordre des médecins, à l'Ordre des pharmaciens, puisqu'il y a des médecins et des pharmaciens qui sont biologistes. Mais nous, on est très attentifs parce que c'est une grande crainte pour la profession qu'un jour ça puisse nous arriver aussi. Et c'est pour ça qu'on ne voudrait pas commettre cette erreur de se servir de cet exemple de la biologie médicale qui est sacrifiée aujourd'hui en France par ce jeu de rachat entre eux. Et on ne voudrait pas que ça arrive aussi chez les pharmaciens d'officine. C'est pour ça qu'on observe beaucoup ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose que personne n'a vu arriver. Et c'est ces histoires de cascade. Et moi, j'avais montré il y a 7 ou 8 ans au conseil de l'ordre devant les autres présidents de région, je leur avais montré ce qui se passait déjà chez nous avec des pharmaciens qui font des SEL, de SEL, de SEL, et on avait une cascade absolument abominable en région Lorraine. On était la plus grosse cascade qu'ils puissent avoir, et c'est pour ça qu'on a urgence d'avoir des textes qui sortent sur l'encadrement des installations de SEL, parce que ce qui s'est passé pour les biologistes, c'est bien ça, c'est les SEL qui sont devenus des gros trusts, et ça pose le problème après de la proximité pour l'accès aux soins de nos concitoyens. C'est un vrai problème.
Merci, madame. La question du collègue de Mercy-le-Bas. Est-ce qu'il est là, mon collègue? Non, c'était bon. On a répondu également, mais une collectivité peut-elle rechercher et faire paraître des annonces pour trouver des soignants et étoffer le service rendu à la population?
Je ne résiste pas. Alors, la réponse est oui. Un petit oui pour l'instant. Il y a en particulier à l'Ordre des médecins des outils qui permettent de diffuser un petit peu d'informations.
Nous...
Le projet est beaucoup plus ambitieux que ça. On en a parlé un petit peu en début de réunion. Et si j'ai bien compris, Madame la Présidente, nous approchons de la fin de cette réunion. Et donc je lance un appel au maire, à leur présidente bien entendu, à l'université et à la faculté de médecine, à l'État et à ses représentants, aux jeunes professionnels, et puis aux ordres régionaux et départementaux, nous espérons réellement mettre sur les rails en 2013 une structure lisible France entière, et on a commencé à y travailler, je crois que tous les corps représentés ici l'ont fait, et en particulier nos jeunes collègues, lisible France entière, qui soit capable de propulser devant les yeux des jeunes professionnels ou des moins jeunes professionnels, mais qui veulent travailler quand même, Denis, même au-delà de 65 ans, des offres, les besoins des collectivités territoriales, les besoins en projets de santé, les besoins en main-d'œuvre médicale, je prends le terme à dessein, et on a un gros travail devant nous. Ce gros travail n'existera pas sans les élus territoriaux, et donc votre venue ce soir est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce qu'on espère beaucoup pouvoir travailler avec vous pendant les mois et l'année qui vient à l'existence de ce projet-là. Merci.
Merci, Monsieur Boyer. Et la dernière question, qui est une question remarque, un petit peu coup de poing, mais comme je l'imagine, René Mangin, vice-président du Conseil général, je me dois de vous lire aussi sa question, qui vous permettra, Monsieur le Préfet, peut-être de conclure. Notre système de santé marche sur la tête. Les études de médecine sont en grande partie prises en charge par la société via l'impôt. Pour quelles raisons majeures faudrait-il que les collectivités, par l'impôt local, prennent en charge l'établissement d'un système totalement libéral? Comment accepter qu'il y ait 10 fois plus de dermatos sur la Côte d'Azur que dans le Nord-Pas-Calais? Ne pourrait-on pas imposer des installations territoriales sur la base des règles établies pour les pharmaciens?
C'est à cause du soleil, Madame la Présidente.
Le soleil qui est excellent pour la peau.
Les mélanomes, voilà.
La consommation réduite.
Alors, Madame la Présidente, je vais répondre à cette question-là, qui pose la question de médecine libérale ou pas, mais de médecine libérale, finalement. Hein, puisque le problème, vous l'avez vu à travers le graphique, hein, il n'est pas le nombre de médecins, même si les médecins en activité se stabilisent, c'est plutôt la répartition territoriale. Et je dirais même, vous l'avez montré tout à l'heure, donc... Et également, les nouvelles installations se dirigent plutôt sur les zones urbaines, peuplées, etc. Hein, puisque, ensuite, bien sûr, le facteur transport, le temps passé au transport, tout ça, en milieu rural, c'est effectivement un élément qui compte. Donc, pour l'instant, Claude Darcourt, que je suis heureux de retrouver ici, et nous a dit qu'on restait dans un cadre libéral. Donc, à moins que tu puisses dire autre chose. Hein, donc, voilà, autrement dit, plus précisément, je pense que la réponse à cette question de Monsieur Mangin, elle est dans le discours de Marisol Touraine du 13 décembre sur le pacte territorial de santé, qui décline 12 mesures extrêmement volontaristes pour pallier donc le manque de médecins en milieu rural, et surtout l'évolution, puisque Marisol Touraine l'a indiqué, sur les 5 dernières années, 80 départements ont perdu des médecins libéraux. Hein, et vous l'avez dit, jusqu'en 2020, de toute façon, compte tenu du délai de réaction du système universitaire pour les médecins, il est quasiment impossible de rectifier ce problème-là dans des délais brefs. Cela dit, dans les 12 mesures de Marisol Touraine, d'abord, il y en a une qui répond parfaitement à l'interpellation du doyen Coudane, ce qui vous a dit, puisqu'il y a les questions donc de rapprocher effectivement les maisons de santé de l'université, de valoriser l'enseignement qui se fait hors les murs, puisque les enseignements se font quasi exclusivement donc dans les hôpitaux, et elle souhaite donc une formation hors les murs, et elle souhaite aussi, pour ce type de formation, apporter une sorte de label universitaire. Alors je crois que c'est plus ou moins ce qu'a évoqué tout à l'heure le professeur Coudane, que je remercie tout de même pour son très fort volontarisme dans un milieu médical qui est parfois difficile, hein, sur des procédures nouvelles. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler sur la permanence de soins, notamment en Dordogne. J'y ai mis 2 ans. Hein. Alors ici, ça se passe très très bien avec la nuit profonde, etc. Les modulations de tarifs de l'assurance maladie, et puis les acteurs qui fonctionnent bien, y compris avec le SAMU, les sapeurs-pompiers, tout ça, c'est parfait. Il y a des endroits où c'est extrêmement difficile à mettre en place, hein, et on est affronté à des négociations qui durent très longtemps. Donc moi, je note tout de même, hein, dans le plan de la ministre, il y a la volonté aussi de faire en sorte que les 50% d'étudiants en médecine qui font des stages en médecine libérale soient 100%. Donc déjà, quantitativement, c'est de la quantité, c'est des mois donc de stages qui sont projetés et notamment fléchés sur le rural. Il y a aussi 1500 bourses, vous savez qu'il y a les bourses pour des étudiants qui s'engagent à s'installer, etc., dans le milieu rural. Donc d'ici 2017, 1500 bourses pour le milieu rural et les zones en difficulté. Et puis, il y a les 200 praticiens territoriaux qui sont dès cette année créés budgétairement, puisque c'est dans la loi de finances sur le social. Donc ce sont des praticiens, enfin des médecins qui vont avoir une garantie d'installation. Tout à l'heure on a dit à quel point il était difficile de s'installer, hein, donc ils vont avoir une garantie d'installation en termes de salaire, de rémunération garantie, et ça c'est tout de même pour commencer, pour un jeune médecin, les deux premières années, le temps qu'il se fasse la clientèle, c'est tout de même assez fondamental. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de mesures, donc la télémédecine, il y a l'urgence à 30 minutes partout, sur tous les territoires. C'est des mesures difficiles à réaliser, mais vous lirez le discours de la ministre Touraine du 13 décembre, vous verrez qu'il y a un volontarisme extrêmement fort et que ça fera plaisir, je pense, à tous ceux qui défendent le milieu rural, d'avoir un plan aussi étoffé, aussi volontaire, avec des moyens derrière. Et donc, je crois qu'elle a vraiment répondu à la problématique. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que la réunion de ce soir est particulièrement importante? Parce que c'est un point essentiel pour le milieu rural. Hein, de toute façon, il suffit que je rencontre ceux qui portent un projet, que ce soit le conseiller général Barbier, que ce soit Jean-François Guillaume, chaque fois qu'il me voit, il me parle de sa maison de santé, hein, puisque nous avons déjà réalisé 6 maisons de santé, il y en a 5 qui sont en train de se réaliser, mais, mon cher Claude, il y a 12 projets en cours, 13 avec celui de Baccara qui vient de se formaliser à l'instant. Il y a un engouement certain pour tout ceci. Donc moi, ce que je constate, j'avais pas mal travaillé sur ce sujet-là avec le précédent président de l'association des maires de Dordogne, où j'étais il y a 6 ans, parce qu'il était médecin et que lui-même avait créé non pas une maison de santé, mais plutôt un pôle de santé dans le sens que tu déclines. Et c'était en plus un spécialiste des nouvelles technologies, très intéressé par tout ça et qui était extrêmement volontariste. Je reviens donc dans un autre territoire, en Lorraine, et je me dis ça a changé à une rapidité pas possible. À l'époque, hein, c'était la permanence médicale, une difficulté extrême à travailler et avoir des médecins en milieu rural pour faire les permanences en milieu profonde et tout ça. Parfois aussi, quand ils n'étaient pas nombreux, on disait on voudrait créer des médecins chez vous, ils disaient non, surtout pas. Alors dans les réunions publiques, on ne disait pas, mais à la sortie, on disait surtout ne faites pas venir d'autres médecins, nous on est deux, on s'arrange, etc. Il y a aussi beaucoup de non-dit dans toutes ces affaires-là. Bon, mais globalement, il y avait ce qu'on appelle maintenant un fort burn-out, hein, chez tous les médecins sur ces affaires-là. Et donc le burn-out, là maintenant, il s'est manifesté, c'est-à-dire c'est la tendance au salariat, les remplacements, donc il y est là. Hein. Autrement dit, là, je rejoins le président de la communauté de communes qui s'exprimait tout à l'heure en disant étudions tout de même ces nouveaux comportements. Hein, donc, si vous regardez bien les tableaux très très intéressants que vous a présenté l'ARS et qui sont actualisés, hein, par rapport à l'an dernier, puisque l'an dernier, à la même époque, on a eu une réunion du Codamups,
on avait présenté, mais ça s'accentue encore. Hein. Donc, vous avez donc une féminisation très rapide. Jusqu'à 50 ans, ce sont des médecins femmes qui arrivent devant les hommes. Ensuite, c'est des hommes sur les tranches plus élevées. Donc, tout ceci, c'est un comportement de vie aussi qui arrive, qui est différent, une manière différente de réfléchir. On a des nouvelles générations, alors c'est pas uniquement vrai dans la médecine, hein, c'est vrai partout. Hein, on a une nouvelle génération qui réfléchit différemment sur ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire et quel temps y consacrer. Donc je pense qu'il ne faut pas éluder le problème, parce que sinon on risque de trouver des solutions qui sont à côté. Il faut tout de même y réfléchir. Et donc c'est sûr que les pôles de santé sont un sujet. J'ai bien retenu aussi, quand j'avais rencontré l'Ordre il y a un an, vous m'aviez dit, attention, ne faites pas n'importe quoi. Hein, c'est ce que vient de dire la directrice régionale aussi des pharmaciens. Je crois qu'il faut effectivement regarder pour avoir justement cette masse critique, hein, et trouver le bon équilibre entre le volontarisme des uns et des autres, la demande de la population qui est très forte en matière de santé, et je terminerai par là, voilà, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Mais la demande de santé et la sécurité sur le plan sanitaire pour la population, c'est un élément majeur de développement économique. Je donnerai l'exemple de Toyota lorsqu'il est venu s'installer à Valenciennes. Donc, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est l'élément santé, hôpitaux, qualité de médecine aussi, qui a fait qu'il s'est installé en France, puisqu'il avait le choix d'aller où il voulait finalement. Hein. Donc, l'élément santé, il est majeur. Alors maintenant que le rural, disons, a donc le logement, il y a toujours du logement, il va y en avoir, il y a le SCOT, il y a tout un tas de choses, donc le logement, il y en aura. Les crèches, le périscolaire, qui est une grande demande, c'est en train de se faire aussi. Le haut débit, ça va arriver, mais bon, on a déjà l'Internet à peu près partout. Le portable, il n'y a que deux ou trois zones où ça passe pas, mais on est en train de s'en occuper. Mais en tous les cas, le 4G arrive, hein, il va amener à la fois du très haut débit et puis aussi du téléphone qui passe partout. La télévision numérique, c'est fait. L'agriculture est en train de se stabiliser en milieu rural, et ça, je vois ça avec de manière extrêmement positive, parce que c'est une tendance de fond, hein, qui après, au prix des céréales, au coût des terrains, au prix des terrains qui remontent, etc. Et puis nous avons de grandes exploitations, hein, puisque les exploitations moyennes grandes sont à 140 hectares, donc c'est un phénomène très très positif pour le rural, et j'ajoute que le dernier recensement de 2010 de l'INSEE montre que la population, alors que en Lorraine c'est surtout en Meurthe et Moselle que la population augmente le plus, alors beaucoup moins que dans les zones du sud, hein, ça va de soi, mais que c'est surtout dans les zones périrurales que la population va s'installer. Hein, donc, pour une raison très simple, c'est le coût du foncier en milieu urbain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la volonté, à partir du moment de bonnes liaisons et routières et ferroviaires qui s'améliorent tous les jours, c'est aussi un mode de vie, là aussi. Hein. Donc, ce sont des zones qui ont tout pour démarrer une nouvelle phase. Et la santé là-dedans, c'est fondamental. C'est fondamental dans l'équation de la famille qui arrive. L'école, le périscolaire, parce que les deux conjoints donc travaillent, donc ça c'est très important, et la plupart des élus travaillent assidûment. Mais la sécurité sanitaire, c'est avec une population française qui est vieillissante, et en Lorraine c'est comme partout ailleurs, c'est un élément très 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 important de l'attractivité des territoires ruraux. Et c'est pourquoi, d'abord, je suis très sensible au fait que l'ARS vienne personnellement et montre d'ailleurs à quel point il maîtrise ses sujets et sa volonté aussi d'avancer en la matière avec l'ensemble des acteurs qui sont ici. Mais c'est un sujet très très important pour notre équilibre territorial avec un rural qui est dynamique, qui offre beaucoup de services maintenant, hein, vous le savez bien, à Zorail ou ailleurs, beaucoup de services, ou chez Jean-François Guillaume ou chez d'autres élus. Hein, donc on voit bien que pour la petite enfance, pour tout ça, il y a beaucoup de services de très grande qualité, très professionnalisés. et que voilà, l'élément santé, il le faut absolument, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi la discussion et le débat de ce soir, moi je vous remercie de l'avoir organisé, parce que voilà, il permet un peu d'échanger, d'aller plus loin avec la prudence qu'il faut, mais aussi avec beaucoup de volontarisme, hein, ce qui doit être le cas chez nous et avec les collectivités qui sont ici présentes, et puis l'ordre et l'ensemble des professionnels ici présents. Merci.
Merci, monsieur le préfet. Je ne reprendrai la parole derrière vous que simplement pour vous remercier pour votre présence, votre participation, pour votre conclusion positive, optimiste et dynamique. Mais nous vous connaissons ainsi, donc vraiment merci. Et pour vous remercier l'ensemble des intervenants, monsieur le directeur régional, monsieur le président, messieurs les présidents, madame, messieurs qui êtes intervenus, vraiment beaucoup. Jean-François, merci pour avoir eu la bonne idée de proposer d'organiser cette réunion. Je vous demanderai simplement, mes chers collègues, si vous avez la gentillesse de remplir la feuille que vous avez trouvée sur vos chaises pour nous faire connaître vos appréciations sur cette réunion. Et puis vous donner rendez-vous dans la continuité de ce que vous venez de dire, monsieur le préfet, sur la réforme des rythmes scolaires. Donc nous organisons des réunions les 4, 5, 6 et 7 février sur les différents territoires sur ce sujet. Vous voyez combien, messieurs, nos domaines d'intervention sont importants. Et le 5 février, peut-être nous ferez-vous aussi l'honneur de votre présence, monsieur le préfet, une rencontre sur la politique pénale avec le procureur et le président du tribunal de grande instance. Vous voyez combien nos domaines d'action sont divers, larges, mais en tout cas, je pense que cette première réunion en appellera d'autres. Merci à mes collègues, merci à Pascal, merci à François qui nous ont fait part de l'expérience, de la bonne expérience de Manière, où la maison de santé est juste située en face de la pharmacie. Voilà.